Europe 1.
Bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 9 avril, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin, Europe 1 en direct des Alpes de Haute-Provence où un nouvel aimant intervient dans l'enquête sur la disparition d'Émile. Un fragment d'os supplémentaire vient d'être retrouvé non loin de la zone où le crâne a déjà été retrouvé la semaine dernière. Émotion et recueillement à Viry-Châtillon à quelques heures des obsèques de Chemseddine, cet adolescent battu à mort jeudi dernier. Dans ce journal aussi, le premier grand débat pour les Européennes du 9 juin. C'était sur Europe 1 et CNews hier soir. Face à face, tendu. Vous l'entendrez entre Valérie Ayer et Marion Maréchal. Et puis la rue de Tivoli à Marseille, un an après l'effondrement de 3 immeubles, une cinquantaine de sinistrés. Elles sont toujours sans logement. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous partons sans plus attendre pour les Alpes de Haute-Provence. Un nouvel élément dans l'enquête sur la mort d'Émile, petit garçon de 2 ans et demi, disparu début juillet dans le Haut-Vernay. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Et correspondant d'Europe 1 dans les Alpes de Haute-Provence, en direct avec nous ce matin, Frédéric. Après le crâne découvert il y a une dizaine de jours, les gendarmes ont retrouvé au moins un fragment d'os qui lui appartiendrait.
Oui, et chaque ossement retrouvé, chaque vêtement, comme les petites chaussures de l'enfant, son t-shirt, sa culotte, sont autant d'indices qui permettront peut-être de résoudre le mystère entourant la mort d'Émile. Plus on a d'éléments, plus on augmente les chances de connaître un jour la vérité. Le ou les fragments d'os découverts il y a quelques jours dans un secteur proche du lieu où le crâne de l'enfant a été ramassé par une promeneuse, ce ou ces fragments ont été envoyés à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Les premières analyses confirment qu'ils appartiennent au garçonnet. Après une semaine passée sur le terrain, les scientifiques de l'IRCGN ont d'ailleurs quitté le Haut-Vernay. C'est désormais dans leur laboratoire à Pontoise qu'ils vont tenter de faire parler ces précieuses pièces du dossier. Sur place, une centaine de gendarmes restent mobilisés. Le hameau est toujours bouclé, interdit d'accès pour préserver la scène. Les fouilles se poursuivent. Un travail d'archéologue minutieux et complexe. On est en pleine nature, dans une zone parfois escarpée, avec une végétation dense. Des militaires de la Légion étrangère spécialisés dans le sondage des sols sont engagés depuis hier. Leur mission, détecter des irrégularités de terrain et retrouver même enfouis des objets métalliques. Criminels, naturels ou accidentels, le procureur d'Aix-en-Provence a rappelé la semaine dernière qu'à ce stade, aucune piste n'était écartée.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans les Alpes de Haute-Provence, en direct pour les derniers développements dans l'enquête sur la mort d'Émile.
À Viry-Châtillon, en Essonne, l'émotion ne retombe pas 4 jours après la mort de Chemseddine.
Et elle devrait monter encore d'un cran à l'occasion de ses obsèques. Aujourd'hui, dans 2 villes voisines, cérémonie dans la plus stricte intimité à la demande de sa famille. L'hommage de la foule prendra la forme d'une marche blanche vendredi sur la commune de Viry-Châtillon. Chemseddine, battu à mort pour avoir osé échanger des messages connotés sexuellement avec la sœur de 2 des assassins présumés. Mobile jugé aussi futile qu'effrayant par ses amis comme Nélia, 14 ans.
J'en ai pleuré parce que ça m'a fait mal au cœur de me dire que il est mort pour ça. C'était horrible parce que en fait moi j'ai repensé à comment genre ils l'ont tabassé jusqu'à le tuer. Donc je me suis dit que ça devait être vraiment être violent. J'ai pensé genre à sa mère aussi, comment elle devait se sentir parce que là elle perd son fils alors que son fils il a rien demandé. Enfin il rentrait juste chez lui. Genre je me dis imagine que ça serait arrivé avec quelqu'un de notre famille, par exemple un petit frère à nous qui rentre et il se fait tabasser. Moi franchement ça m'a vraiment fait mal au cœur. C'était quelqu'un de gentil, de bien. J'ai jamais entendu tout le monde dans les bagarres, etc. Il était ami avec tout le monde. Je suis aussi énervée parce que je me dis que, genre, dans tous les cas, peu importe la peine qu'ils vont prendre, ceux qui ont fait ça, ça va pas le ramener. En fait, ils l'ont quand même tué. Et ça, c'est un acte irréparable.
Le témoignage de Nélia, 14 ans, une amie de Chemseddine, au micro de Thibaut Hu.
Il est 7h04 sur Europe 1. La campagne pour les élections européennes, premier grand duel hier sur Europe 1 et CNews entre Valérie Ayer et Marion Maréchal. Grand débat à 2 mois pile du scrutin.
À la tête de liste Renaissance face à la porte-drapeau de Reconquête, agriculture, sécurité européenne, politique migratoire. Les désaccords n'ont pas manqué, Alexandre Chauveau.
L'opposition est franche sur les raisons de l'ultra-violence à l'école, le pacte vert européen ou l'intégration de l'Ukraine à l'Europe et à l'OTAN. La solidarité avec l'Ukraine, ça n'est pas le suicide, lance Marion Maréchal, accusée par Valérie Ayer de proximité avec la Russie.
J'ai vu que vous étiez allé à plusieurs reprises encenser Vladimir Poutine. Donc entre ce que vous dites et les votes aussi de Nicolas Bay au Parlement européen, moi je vois pas un soutien absolu à l'Ukraine.
Vous jouez à la guerre comme au Playmobil et vous utilisez cette guerre pour cliver le débat politique. Je trouve que c'est irresponsable.
Les deux candidates s'opposent également sur le pacte asile et migration voté dans les prochains jours à Strasbourg. Marion Maréchal se montre ainsi hostile à la répartition prévue des migrants dans les différents pays de l'Union.
Je suis toujours sidérée de voir que vous ne tenez pas compte aujourd'hui du poids social, identitaire, culturel et sécuritaire que fait peser l'immigration dans notre pays.
Je ne lie pas les sujets migratoires au sujet criminalité. On a besoin de régulariser des gens qui travaillent, qui respectent nos valeurs.
Débat conclu après une heure d'échange. Valérie Ayer revendique son pragmatisme. Marion Maréchal, son combat contre le grand remplacement.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Il y a deux mois du scrutin, les sondages continuent de donner une large avance au Rassemblement national. Le parti de Jordan Bardella qui enregistre un nouveau ralliement, celui de Mathieu Vallet, policier très actif sur les réseaux sociaux. Notamment, il va intégrer la liste du RN pour les européennes du 9 juin.
Voilà, et il a choisi Europe 1 pour sa première prise de parole de candidat. Ce sera tout à l'heure dans une heure, à 8h10, face à Sonia Mabrouk. La météo, très compliquée. On en parlait avec Anissa Dadi il y a quelques minutes. Orages et pluies de grêlons hier soir sur plusieurs départements.
Et oui, le bruit des grêlons qui percutent le sol, les façades et le toit des maisons dans Lyon jusqu'à 4 cm de diamètre. La grêle a également frappé plusieurs départements de la région Occitanie. Pas de gros dégâts signalés pour l'instant.
Et puis un an après l'effondrement de 3 immeubles à Marseille, de nombreux habitants de la rue de Tivoli n'ont toujours pas de logement.
L'explosion due au gaz avait pulvérisé un immeuble et entraîné 2 autres dans sa chute. Bilan, 8 morts, des dégâts considérables. Cérémonie commémorative prévue sur place ce matin. Un an après, une 50aine de personnes seraient toujours concernées. Le correspondant d'Europe 1 à Marseille a rencontré 2 propriétaires d'un immeuble voisin du lieu du drame. Reportage Stéphane Burgat.
Ici, presque rien n'a changé. Des étés disposés en zigzag soutiennent toujours 2 immeubles qui se font face. Propriétaire d'un bâtiment voisin, Audrey, pour sa part, attend toujours de pouvoir rentrer chez elle.
Notre appartement, mais il n'a plus de fenêtres, plus de menuiserie. Enfin, vous voyez ma terrasse, on n'a plus de mur. On n'a plus de vie depuis un an. On part plus en vacances. Hein. Vous savez, pour vous loger là, 1600 euros de frais d'agence, 3400 euros de caution. Vous devez prendre un deuxième contrat d'assurance habitation. Vous payez toujours les charges de cet appartement-là. On a arrêté de payer l'emprunt que depuis le mois de février.
Elle ne sait toujours pas avec certitude si elle aura la force de revenir vivre ici après un tel drame. Ronan, son voisin du dessus, se pose exactement la même question. Mais aujourd'hui, pour lui, la priorité reste le bras de fer avec les assureurs.
Pour l'instant, les assurances refusent catégoriquement tout accord cadre au niveau immobilier. Nous, la phase de sécurisation elle a coûté 150 000 euros. Et là, la réhabilitation des 3 appartements, il y en a à peu près pour 500 000 euros. J'espère qu'elle prendra la totalité. Ouais.
Le volet judiciaire, lui aussi, est loin d'être refermé. Si la piste de l'explosion due au gaz est une certitude, on ignore toujours tout des circonstances. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
Bon, et lui, il paraît qu'il incarne l'avenir du basket français. On connaissait Victor Wembanyama. Zachary Risacher devrait lui aussi rejoindre la prestigieuse Ligue NBA.
Et oui, on va pouvoir en juger déjà ce soir à l'occasion de la finale de l'Eurocup 100% française. Le Paris Basket accueille Bourg-en-Bresse pour la première manche. Et dans les rangs de Bourg, la grande pépite Zachary Risacher, 19 ans seulement, mais déjà promis un bel avenir aux États-Unis, Martin Lange.
Il ne culmine pas à 2m23 comme Wemby, mais du haut de ses 2m07, Zachary Risacher éclabousse l'Europe de son talent. Plus de 11 points par match, un titre de meilleur jeune et une première finale européenne ce soir. À 19 ans, le fils de l'ancien international Stéphane Risacher est du genre pressé. Couvé par Tony Parker à l'ASVEL, il a préféré partir pour s'aguerrir à Bourg. Paris réussit sous la houlette de Frédéric Fautou, ancien coéquipier du Paternel.
Il fait 2m07, il court comme un joueur de 1m80. Il a une grosse intelligence de jeu et en plus, pour être complet, c'est un super gamin. C'est le genre idéal presque, on va dire. Il nous fait une saison exceptionnelle. Il a éclaboussé son grand talent au monde entier puisque c'est les États-Unis qui veulent le récupérer. Que pour le basket français, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Depuis septembre, les recruteurs NBA affluent à l'Equinox, la petite salle burgienne, épaté par la maturité du garçon. Le 27 juin prochain, lors de la draft, il devrait marcher dans les pattes de Victor Wembanyama, premier ou deuxième, son principal adversaire, un autre Français, Alexandre Sarr, le basket tricolore, pépinière de champion.
Martin Langer, ça promet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Absolument.
Pour avoir une équipe de feu.
Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
Comment faire en sorte que tous les Français aient accès à un médecin, au moins un médecin généraliste dans un rayon de 30 km en voiture autour de chez eux? Ça fait partie des annonces de Gabriel Attal ce week-end. On va passer ça en revue dans 10 minutes avec Nicolas Bouzou. Juste après, l'invité actu d'Europe 1 Matin. Justement, parmi les annonces, il y en avait concernant les soins palliatifs. Nous sommes en ligne avec le docteur Étienne Mignot. Lui travaille dans le département de l'Indre où il n'y a pas justement d'unité de soins palliatifs. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur spécialiste en soins palliatifs, Hervé Mignot.
Bonjour docteur Hervé Mignot.
Bonjour monsieur.
Vous êtes, docteur Mignot, le chef de l'équipe d'appui départemental en soins palliatifs du département de l'Indre, donc c'est autour de Châteauroux. Vous allez dans un instant nous expliquer exactement ce que vous faites, mais vous êtes en ligne avec nous ce matin puisque Gabriel Attal a dévoilé samedi plusieurs mesures pour permettre aux Français d'accéder plus facilement aux médecins. On sait qu'il y a des déserts médicaux en France. Il y a tout un volet de ces annonces qui concernent le développement des soins palliatifs. Ça sera l'objet d'un texte de loi qui va être présenté en Conseil des ministres demain, mercredi. Il se trouve qu'en France, il y a 21 départements où on n'a pas ce que l'on appelle d'unité de soins palliatifs, c'est-à-dire vraiment des endroits dans les hôpitaux où on peut gérer la fin de vie des patients. Vous, justement, vous êtes une unité mobile parce qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs dans le département de l'Indre, docteur Mignot, c'est bien ça, hein ?
Non, il n'en existe pas, en effet. Nous n'avons pas trouvé les moyens. D'abord, nous n'avons pas eu les moyens financiers pour la mettre en place. Et d'autre part, nous manquons aussi de moyens humains, de médecins, d'infirmières, de cadres formés dans le champ des soins palliatifs pour pouvoir assumer à la fois les deux équipes mobiles du département et puis ce qui serait cette unité. Il est certain qu'il y a une perte de chance pour un certain nombre de patients et en particulier certains d'entre eux ou leurs familles rechignent à se rendre dans les départements limitrophes pour être accueillis dans les unités de soins palliatifs voisines.
Alors, racontez-nous un peu votre quotidien, docteur Mignot. C'est quoi une unité mobile de soins palliatifs ? Comment ça se passe ? À quoi ressemble votre équipement ? Racontez-nous, parce que on a peut-être pas forcément l'habitude de visualiser ce que vous faites.
Alors, c'est une unité qui dépend du centre hospitalier de Châteauroux, qui est composée de médecins, d'infirmières, psychologues, secrétaires, qui peut être appelée par tout le monde, c'est-à-dire aussi bien le patient que son entourage, les soignants, et bien sûr les médecins qui s'occupent de ces patients pour pouvoir recueillir un avis sur les prises en charge. Nous n'intervenons pas pour accompagner les malades nous-mêmes, mais nous sommes là pour aider les intervenants de première ligne à mieux les accompagner. Nous essayons de mener des évaluations sur place, là où sont les patients, ce qui impose qu'on se déplace dans tout le département avec parfois des temps de route qui sont de l'ordre d'une heure pour aller rencontrer le patient, essayer de comprendre quelle est sa situation dans toutes les dimensions de sa personne, aussi bien sur le plan somatique que sur le plan social, familial, psychique, spirituel, et de voir de quelle façon nous pouvons lui venir en aide s'il y a effectivement des aspects qui sont insuffisamment pris en charge.
Mais vous faites de l'évaluation, c'est-à-dire du diagnostic. Vous n'êtes pas là au quotidien à assurer les soins, si j'ai bien compris. Hein.
Voilà. Nous ne sommes pas là pour, au quotidien, faire les prescriptions, suivre les patients. Nous apportons un avis d'expertise qui est ensuite pris, qui est repris par le médecin responsable, qui a le loisir d'ailleurs de suivre nos avis ou pas d'ailleurs. Et puis ensuite, nous pouvons réévaluer autant que de besoin les situations, bien sûr.
Mais est-ce que vous appelez intervenants de première ligne, docteur Mignot, si j'ai bien compris, hein, ce sont les médecins traitants, les infirmiers, les kinésithérapeutes, mais est-ce qu'il y en a partout là où vous vous rendez, dans toutes les communes où vous vous rendez ?
Alors effectivement, nous sommes assez souvent confrontés à ces situations de patients qui n'ont plus de médecin et qui pourtant sont en fin de vie et ont besoin crucial d'être visités. Et à ce moment-là, notre travail consiste à essayer de trouver parmi les médecins présents dans le département certains qui seraient d'accord pour venir exceptionnellement prendre un nouveau patient. Et nous faisons appel souvent aux ce qu'on appelle les CPTS, les communautés professionnels de santé territoriale.
Qu'est-ce que vous pensez, docteur, de ce qui se prépare au niveau législatif, c'est-à-dire un projet de loi biface, donc qui prévoit d'un côté le développement des soins palliatifs et puis de l'autre cette fameuse aide à mourir dont on a déjà beaucoup parlé. Les situations que vous rencontrez vous font pencher en faveur de cette aide à mourir. Qu'en pensez-vous, docteur ?
Non, ce projet de loi nous met à mal parce qu'il met dans le même projet deux aspects radicalement différents, que sont d'un côté l'accompagnement de la souffrance de l'autre et la mobilisation de toutes les énergies nécessaires pour aller repousser le plus loin possible cette souffrance, et de l'autre une solution qui serait une interruption de vie, comme une interruption de courant.
C'est la négation de votre travail un petit peu, vous avez l'impression que c'est ça, cette aide à mourir ?
Écoutez, j'utilise souvent une métaphore, je dis souvent que c'est comme si on faisait une loi autorisant les régimes dans un pays où les gens souffrent la plupart de la faim. Ce n'est pas décent aujourd'hui de proposer à ce moment-là, dans cette temporalité-là, ce projet, et en plus de le coller à une majoration du plan des soins palliatifs. Alors, vous savez, ce plan en faveur des soins palliatifs, depuis 35 ans que j'exerce dans ce métier, j'en ai vu passer beaucoup de ces fameux plans. Je ne vous cache pas que j'attends encore les bénéfices des plans précédents, parce qu'annoncer qu'il va y avoir de l'argent de verser ne veut pas dire que forcément ils le seront, que les équipes sur place en seront bénéficiaires, et que ça se traduira véritablement par un mieux-être pour les patients.
Mais de quoi vous auriez concrètement besoin dans l'exercice de votre métier au quotidien ?
Alors écoutez, ce qu'il faudrait avant tout, c'est véritablement un basculement de culture. C'est-à-dire que on commence à comprendre que finalement le soin palliatif, c'est premier. Il faudrait faire beaucoup de formations, il faudrait parfois contraindre, hein, je le dis très clairement.
Vous pensez à quoi ? Quel genre d'institution il faudrait contraindre, selon vous ?
Écoutez, je vais pas mettre de la discorde là où il n'y a pas besoin d'en mettre, mais je veux dire par là, par exemple, que les crédits nous arrivent. Moi, dans mon équipe, je suis encore en train d'attendre des crédits, par exemple, d'une assistante sociale qui devait nous être versée il y a 5 ans et qu'on attend toujours.
Il y a 5 ans ?
Oui, là où les responsables administratifs se renvoient là-bas, les uns disant qu'ils n'ont pas reçu les versements suffisants, d'autres qui disent, mais si, finalement, ils y sont, mais c'est votre... Bon, nous sommes au milieu de tout ça, impuissants, à devoir finalement faire le travail par nous-mêmes et le faire sans doute moins bien qu'une assistante sociale le ferait elle-même, alors que nous sommes tenus d'essayer d'accompagner un plus en plus grand nombre de personnes, de plus en plus précaires, parce que la population est vieillissante, à domicile du fait du virage ambulatoire.
Et vous suivez combien de personnes en ce moment avec votre unité mobile, docteur Mignot ?
Alors, on a en permanence entre... Alors, c'est très variable. Autour de 15 à 20 personnes que nous suivons de près. Et puis, il y a des patients pour lesquels nous sommes en contact également, qui régulièrement se réacutisent, si vous me passez ce vilain mot, et pour lesquels il faut qu'on réintervienne vite. Et puis, il y a aussi tout le champ du soutien des familles, notamment après le décès, parce que ça fait partie de notre travail de continuer à être vigilant auprès des familles lorsqu'elles ont perdu un proche et que nous savons que certains d'entre eux sont vulnérables et qu'il faut les soutenir pendant un temps déterminé.
Donc les soins palliatifs, c'est même après le décès du patient, en tout cas dans votre cas, docteur Mignot. Merci en tout cas d'avoir témoigné au micro d'Europe 1, docteur. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Allez, à suivre dans un instant l'édito écho de Nicolas Bouzeau sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Il est 7h20, merci d'avoir choisi Europe 1. Dimitri Pavlenko.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Nicolas, le gouvernement a annoncé depuis ce week-end une série de mesures pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin, aux soins médicaux. On parle notamment de la fameuse taxe lapin. Est-ce que c'est efficace ?
Oui, la taxe lapin, alors qui vise à pénaliser ceux qui posent un lapin à leur médecin. Alors, c'est pas un petit sujet. Hein. Les médecins sont débordés, il y a des déserts médicaux partout en France et jusqu'à 10% des rendez-vous hebdomadaires ne sont pas honorés. Il est donc logique de mettre en place une pénalité financière. Hein, c'est ça, cette taxe lapin, une pénalité financière qui sera de l'ordre de 5 euros sans doute. Bah, déjà pour décourager ce type de comportement, mais aussi si cette taxe est reversée aux médecins, hein, pour les indemniser de ces rendez-vous non honorés. Alors c'est une pratique courante aux États-Unis où ce sont les cabinets eux-mêmes qui pratiquent cette taxe, qui la collectent. Eh bien, ce qu'ils font, les cabinets qu'ils font observent une baisse nette des rendez-vous non honorés. Bon, bah, écoutez, ça a l'air de marcher. Allons-y.
Dans la musette du Premier ministre, deux autres mesures, Nicolas, faciliter d'abord l'accès direct aux spécialistes et permettre aussi aux pharmaciens de prescrire des antibiotiques contre des maladies courantes, type cystite ou angine. Est-ce que ça fonctionnerait, ça ?
Ouais, là encore, ce sont des bonnes mesures. Mais quel est le problème ? Il y a 57 000 médecins généralistes en France, c'est 7 000 de moins qu'il y a 10 ans, alors que la population a augmenté et qu'elle a vieilli. Dans certains départements, c'est catastrophique. Hein. Dans l'Yonne, par exemple, le nombre de médecins généralistes en cabinet a diminué de 40% en 10 ans. Et d'ailleurs, les médecins généralistes, on les comprend, sont les premiers à se plaindre de leur rythme de travail qui se traduit par une baisse du temps de consultation. Toutes les études montrent que la durée moyenne de consultation en France, elle est à peine supérieure à 15 minutes. Le problème, c'est que des études ont montré que des durées de visite courtes étaient associées à des diagnostics et à des prescriptions moins précises. Alors, pour des pathologies où un test suffit, des bandelettes par exemple, c'est le cas des cystites, eh bien, le passage chez le pharmacien, c'est absolument parfait. Les femmes qui souffrent d'une cystite sans trouver de médecin souffrent horriblement, sont parfois obligées d'aller aux urgences, ce qui est le
parcours de soins le plus coûteux. Donc oui, permettre aux pharmaciens de prescrire des antibiotiques pour ce type de pathologie, on aurait dû le faire bien avant.
Bon, vous êtes plutôt favorable à toutes les mesures dont on vient de parler, mais les syndicats de médecins, eux, ils semblent opposés. Hein.
Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de syndicats de médecins libéraux en France. Il y en a 6. Ils sont très conservateurs. Les syndicats de médecins refusaient la vaccination contre la grippe en pharmacie, qui est un immense succès. Ils détestent les plateformes comme Doctolib pour la prise de rendez-vous, parce qu'ils y voient une mise en concurrence des médecins. Ces plateformes sont plébiscitées par les Français. Et demain, je vous parie qu'ils ne voudront pas de l'intelligence artificielle, parce qu'ils l'accuseront de dégrader la qualité de la médecine. Je vous le dis franchement, j'ai l'impression que c'est parfois plus facile de toucher à la retraite des cheminots avec Sudrail que de réformer le système de santé avec nos syndicats de médecins.
Merci beaucoup Nicolas Bouze, vous allez vous faire des copains chez les médecins. Il est 7h22 sur Europe 1.
Europe 1.
Allez, n'oubliez pas tous les soirs sur Europe 1, vous pouvez prendre la parole et si vous en avez besoin, vous confier.
Oui, avec du lundi au jeudi, l'écoute bienveillante d'Olivier Delacroix et du vendredi au dimanche, Valérie Darmon. C'est un moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou. La libre antenne d'Europe 1, c'est tous les jours, juste après le journal de 22h et jusqu'à 1h du matin. Et si vous souhaitez témoigner, partager votre expérience, prendre la parole sur Europe 1 la nuit, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 01 80 20 39 21.
Allez, bon réveil à vous, il est 7h23, l'heure du journal permanent. Christophe Lamarre.
Les obsèques de Chem Céline prévues aujourd'hui près de Viry-Châtillon, cérémonie dans la plus stricte intimité à la demande de sa famille. Une marche blanche est prévue vendredi à la mémoire de l'adolescent décédé après avoir été violemment frappé. Reprise ce matin des négociations sur l'emploi des seniors entre partenaires sociaux, syndicats et patronats ont prévu de se retrouver à 10h pour aboutir à un accord avant que l'État ne reprenne la main. Emmanuel Macron clôt la discussion sur un éventuel projet de loi de finances rectificative. Aucun intérêt, dit le chef de l'État. Le problème, c'est pas la dépense, ce sont les recettes, affirme le président.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, weekend.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Le 9 avril 2005, l'actuel roi d'Angleterre, Charles III, qui n'était encore que le prince Charles, épouse Camilla Parker Bowles. Vous revenez ce matin à l'heure d'Autriche sur ce royal mariage largement couvert à l'époque par Europe 1.
Oui, ce mariage au château de Windsor entre le prince Charles et Camilla, amants depuis 30 ans, a finalement été accepté par la reine. Et le public salue ce jour-là, au micro d'Europe 1, un mariage d'amour.
Ils sont très jolis, parce qu'ils s'aiment depuis très longtemps. C'est dommage qu'ils n'aient pas pu se marier au début.
Ce mariage sous les yeux de la reine et devant 800 invités, la conclusion d'une longue réhabilitation en fait auprès du public et de la famille royale pour faire accepter cette union, parce que Camilla a longtemps été considérée comme celle qui a causé le malheur de Diana.
La briseuse de ménage, la sorcière maléfique, c'était elle. Camilla Parker Bowles, 49 ans, la meilleure amie du prince de Galles. Une amie très, très proche, trop proche, au goût de la presse à scandale. L'affaire avait éclaté en 1994. Ce jour-là, Charles se confie devant les caméras de télévision. C'est le trône d'Angleterre qui vacille. Le prince avoue son adultère. Diana, l'épouse modèle, devient une victime. Camilla est son bourreau.
Camilla va divorcer elle aussi et elle est traînée dans la boue par les tabloïds du royaume, tandis qu'à l'époque, Lady Di est portée au nu. Et puis à la fin des années 90, la réhabilitation commence dans la presse anglaise, comme le raconte le correspondant d'Europe 1 à Londres, Julian Keane, en 1997.
J'ai les journaux là devant moi, je regarde et qu'est-ce que je vois ? Camilla. Alors Camilla présentée en tant que victime. Dans le Sunday Mirror, par exemple, on raconte comment elle était pratiquement au bord du suicide quand Charles a révélé sa liaison pour la première fois.
Mais la réhabilitation a fonctionné. À la sortie du château de Windsor après la cérémonie en 2005, les princes William et Harry ont lancé des confettis et Camilla, dans sa robe de soie bleu ciel, a pris son premier bain de foule en tant qu'épouse de l'héritier du trône d'Angleterre.
Merci Lord d'Autriche. Réalisation Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre un week-end pour deux dans l'un des casinos hôtels Partouche. Alors au programme de votre week-end, deux soirées inoubliables dans le casino Partouche de votre choix. Vous pouvez aller à Forges-les-Eaux, à Contrexéville, à Hyères, à Divonne-les-Bains, au Havre ou encore à Aix-en-Provence. Sur place, vous aurez des animations, 30 euros de crédit de jeu, on s'occupe de tout. Hein. Un repas au restaurant, deux nuits à l'hôtel du casino. Et vous pouvez déjà vous mettre l'eau à la bouche en allant découvrir tout cela sur le www.partouche.com.
Voici la question du jour. Quel âge a le prince Charles lors de son mariage en 2005? 56 ans ou bien 60 ans?
Pour tenter votre chance, c'est simple. Ce matin, vous envoyez Casino au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Mathieu Vallée sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Oui, il y a 10 jours, il était encore le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Le voilà en position éligible sur la liste de Jordan Bardella aux européennes. Il a choisi Europe 1 et Sonia Mabrouk pour ses premiers mots de candidat. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Le temps, Anissa Haddadi, très agité aujourd'hui, avec notamment une dégringolade des températures.
Oui, on perd 10 degrés, voire plus, 9 degrés à Annecy cet après-midi, 10 à Aurillac et Belfort, 12 degrés à Grenoble. Alors c'est vrai, je vous prends souvent Grenoble comme exemple, mais 12 degrés à Grenoble, sachant qu'hier il en faisait 30, on perd 18 degrés en 24 heures. 12 également à Lille et Lyon, 13 à Paris, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Périgueux, 14 degrés pour La Rochelle, Bordeaux, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Nantes, 17 à Nice et Perpignan, 18 à Marseille et 22 pour Ajaccio. Ce matin, la pluie se concentre sur la façade est du pays, entre l'Alsace et les Alpes, avec de la neige sur tous les sommets à partir de 1000 mètres. C'est compliqué aussi à l'ouest avec beaucoup de vent, jusqu'à 100 km/h. Nous avons 11 départements en vigilance orange, 7 pour vague submersion des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne. Donc attention, pas de balade en bord de mer aujourd'hui. Les coefficients de marée sont très élevés. Et puis tout au long de la journée, on aura un ciel partagé entre nuages, éclaircies et averses.
Merci Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 Matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Deuxième nuit en garde à vue pour la mère d'Avallon dans l'Yonne, Jamila Absaoui. Savait-elle que de la drogue et des lingots d'or se trouvaient dans l'une de ses propriétés? Sur place, ses administrés se posent beaucoup de questions, vous les entendrez. La lutte contre le trafic de drogue au menu des discussions au Sénat aujourd'hui. Audition cet après-midi du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et présentation de nouvelles pistes comme un statut de repenti pour les nourrices. On va tout vous expliquer dans un instant. Et puis les bons cons ne font pas toujours les bons amis. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, lorgne sur les caisses des collectivités locales pour redresser les finances publiques. Pas question de mettre plus la main à la poche pour les élus locaux. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La garde à vue de Jamila Absaoui se poursuit encore ce matin. La mère d'Avallon dans l'Yonne est entendue depuis dimanche après la découverte dans l'une de ses propriétés de 70 kilos de cannabis, de la cocaïne et plusieurs lingots d'or. Une série dans le cadre des opérations PlaceNet XXL qui visait notamment l'un des frères de l'élu connu par les services de police pour trafic de drogue. Les habitants de la commune, eux, n'en reviennent toujours pas. Le reportage pour Europe 1 de Wilfried De Villers.
Sur la place de la mairie, Monique, appuyée sur sa canne, tend un bras fragile vers le bâtiment municipal, l'air désabusé.
Et jamais on n'aurait pensé que ça se passerait là, à Avallon. C'est incroyable qu'une mère se trouve dans ce pétain-là. Le bleu-blanc-rouge, il va déteindre. Je veux bien qu'elle soit pas au courant, mais enfin, ça semble un petit peu bizarre quand même.
La mère, Jamila Absaoui, assure qu'elle ne savait pas que de la drogue était entreposée dans ce pavillon où vivent son père et son frère. Une version difficile à croire pour Arthur et Simon, attablés à la terrasse d'un café où c'est le sujet principal des conversations.
Ça me paraît compliqué qu'on soit pas au courant de ce genre de trafic. 70 kilos de shit, c'est pas 10 euros quoi. C'est assez visible, je pense.
70 kilos, ça tient pas dans un tiroir. Donc, peut-être faut lui laisser quand même le bénéfice du doute. C'est la justice qui dira si elle est coupable ou pas coupable.
Les perquisitions au pavillon dont elle est propriétaire, à la mairie mais aussi au domicile de ses proches, ont également permis la saisie de 983 grammes de cocaïne, d'une vingtaine de lingots d'or et de 7000 euros en liquide.
Wilfried De Villers pour Europe 1. La lutte contre le trafic de drogue au menu des discussions au Sénat aujourd'hui. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est auditionné par la commission d'enquête contre le narcotrafic après avoir remis en cause les déclarations des magistrats marseillais qui avaient affirmé que la guerre contre le trafic de drogue était, je cite, « perdue d'avance dans la cité phocéenne ». Il sera également en question de créer un statut de repenti pour les nourrices, ces personnes qui, la plupart du temps sous contrainte, stockent armes et drogues pour les dealers, Jean-Baptiste Marty.
Elles sont vulnérables, souvent sans emploi et vivant au dernier étage des immeubles. Les nourrices, une cible privilégiée des narcotrafiquants, selon Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté.
Plus de 30% de familles monoparentales, majoritairement portées par des femmes, donc des femmes seules avec leurs enfants.
Des nourrices exploitées qui détiennent des informations à capital pour les policiers, mais pour les obtenir, leur protection est nécessaire, ce que garantirait ce nouveau statut.
Première chose, on les exfiltre, on leur permet de déposer plainte. Deuxième chose, on les protège, on leur donne une nouvelle identité, un nouvel appartement, un nouveau travail, tout ce qui fait qu'elles puissent être protégées loin du point où ça s'est passé et leur permettre surtout d'apporter à la justice et à la police les informations nécessaires à l'arrestation de ces réseaux criminels.
Un statut de repenti directement inspiré de l'Italie et des États-Unis, en vigueur en France depuis 2014 pour les anciens membres de réseaux criminels, il devrait donc être élargi à ces mères nourrices dans un projet de loi présenté d'ici la fin de l'année.
Jean-Baptiste Marty, dans l'actualité judiciaire également, les obsèques de Shannon cet après-midi dans la petite ville de Caufry dans l'Oise. L'adolescente de 13 ans violée à Rantigny au début du mois de mars est morte des suites de ses blessures. Le recueillement également dans l'Essonne pour l'inhumation de Chemseddine cet après-midi à Morsan-sur-Orge. Une marche blanche sera organisée vendredi. Pour rappel, 4 jeunes sont mis en examen et incarcérés pour assassinat, soupçonnés d'avoir battu à mort cet adolescent de 15 ans parce qu'il avait parlé de sexe à leur sœur. Elle est d'ailleurs mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime.
Europe 1, il est 7h35. Le projet de loi sur la fin de vie, il arrive demain en Conseil des ministres. Alors, en parallèle de l'aide à mourir, le gouvernement prévoit tout un volet pour le développement des soins palliatifs.
Notamment les USP, les unités spécifiques en soins palliatifs, car 21 départements n'en sont toujours pas dotés aujourd'hui. C'est le cas du Cher à l'hôpital de Bourges. Une absence qui se fait ressentir sur la qualité des soins, explique ce matin sur Europe 1 le docteur Anne-Claire Courreau, spécialisée en soins palliatifs.
Nous, aujourd'hui, les patients qui ont une maladie de Charcot ou une trachéotomie et qui doivent être hospitalisés, dans notre hôpital, on n'a plus la structure pour les accueillir et donc on les envoie dans d'autres hôpitaux qui ont les structures pour. Mais en fait, c'est à 2 heures de route ou 2h30. Et donc, ces patients, ils sont coupés quelque part de leur famille, de leur cadre amical. Ils peuvent moins avoir de visites, tout est plus compliqué. Dans un service classique, on n'a pas forcément le temps de se poser à côté des patients pour vraiment écouter jusqu'au bout ce qu'ils ont à nous dire. Il y a malheureusement des personnes qui, en fin de vie, ont des symptômes tels qu'une équipe qui n'a pas une formation spécifique et une grande expertise n'arrivera pas à les soulager. Et donc là, c'est vraiment des traitements qui demandent une grande habitude et qu'on peut, nous, aujourd'hui, à Bourges, on ne peut pas utiliser.
Marie-Claire Courreau, médecin spécialiste en soins palliatifs. Cette question à présent, Bercy va-t-il faire les poches des collectivités locales? Rendez-vous au ministère de l'économie aujourd'hui pour un entretien qui s'annonce déjà tendu, car pour faire face à l'explosion de la dette française, plus de 3 000 milliards d'euros, Bruno Le Maire cherche à renflouer les caisses. Margot Faudéré, les collectivités locales se disent dans l'incapacité de verser 1 euro supplémentaire.
L'année dernière, les comptes des administrations publiques locales ont plongé dans le rouge. Leur déficit a atteint près de 10 milliards d'euros selon l'INSEE. Et pour François Durovray, le président de l'Essonne, c'est la conséquence non pas d'une mauvaise gestion, mais d'un autre phénomène qui asphyxie les départements.
En Essonne, en 2024, les dépenses sociales supplémentaires imposées par l'État, c'est plus 40 millions d'euros. Dans le même temps, nos recettes se sont effondrées puisque ces recettes sont assises principalement sur les droits de mutation, les droits de notaire. Nous avons perdu pour la seule année 2023 100 millions d'euros. Nous n'avons aucune marge de manœuvre.
La situation est tout aussi tendue du côté des communes, mais des économies pourraient être trouvées sur la masse salariale des collectivités territoriales, estime Olivier Redoulès, directeur des études chez Rexecode.
Sur les 25 dernières années, le nombre d'agents de la fonction publique territoriale a augmenté de 58%. Il y a un potentiel d'économie important, mais il faut que l'État leur donne les moyens de le faire.
Bercy assure que rien n'a été décidé avant la réunion du Haut Conseil prévue aujourd'hui, avant de rappeler tout de même que l'idée c'est de régler ensemble le problème des finances publiques.
Margot Faudéré pour Europe 1.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Allez à suivre l'édito international d'Europe 1 après Israël. Voilà que l'Allemagne à son tour se fait traîner devant la Cour internationale de justice accusée par le Nicaragua de génocide à Gaza. Vincent Hervouet va nous raconter cette histoire dans un instant.
Très bon début de journée avec Europe 1, il est 7h38.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Très bon début de journée, bon mardi avec Europe 1, il est 8h-20, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique, on va parler sondage ce matin. Les sondages, ils sont très bons en ce moment pour le Rassemblement National et pour la liste de Raphaël Glucksmann aussi. Beaucoup moins pour les macronistes, on va voir pourquoi, avec Alexis Brézet. Mais d'abord, le Club Culture d'Europe 1 Matin, nous sommes mardi, jour de jeux vidéo. Bonjour Caroline Speller.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un conte sur deux frères qui partent à l'aventure pour sauver la vie de leur père dans Brothers, A Tale of Two Sons.
Nicolas Caro, le livre du jour aussi. Nicolas, bonjour Nicolas.
Bonjour, je vous emmène au Canada, en Colombie-Britannique, pour un roman magique.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vincent, l'Allemagne comparaît depuis hier devant la Cour internationale de justice. Le Nicaragua l'accuse d'être complice d'un génocide à Gaza.
Alors on est tenté de hausser les épaules tellement la ficelle est grosse. D'abord, accuser les Allemands de génocide, vous êtes sûr de provoquer un électrochoc outre-Rhin et de frapper les imaginations partout ailleurs? C'est un exemple quasi chimiquement pur de désinformation. Le Deuxième Reich a commis un génocide en Namibie avec l'extermination des peuples Herero et Nama. Le Troisième Reich a récidivé avec les Tziganes et l'Holocauste des Juifs. Traîner la République fédérale devant la Cour internationale de justice pour un nouveau génocide, c'est réveiller la culpabilité qui la taraude, l'empêchant d'être une grande puissance tout à fait comme les autres. Mais c'est aussi semer un doute chez les Occidentaux et les amener à se poser la question « Et si c'était vrai ?» Jamais 203, n'est-ce pas?
Oui, alors la plainte exige que l'Allemagne cesse d'urgence de fournir des armes à Israël et qu'elle reprenne immédiatement son aide à l'UNRWA, à l'agence de l'ONU pour les Palestiniens.
Mais en réalité, la plainte est déposée contre Berlin parce qu'il n'aurait servi à rien d'accuser les États-Unis, le principal soutien d'Israël. Les Américains se sont juridiquement blindés contre ce genre de procédure, pas l'Allemagne. Elle arrive en second comme fournisseur d'armes, à Israël. L'an dernier, elle a fourni d'ailleurs la moitié des armes conventionnelles livrées à Tsahal. Et pour cause, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dicte à l'Allemagne sa politique étrangère, notamment sa relation avec Israël. Elle est l'allié indéfectible qui s'interdit toute critique. S'il ne reste qu'un seul interlocuteur à Benjamin Netanyahou en Europe, il parlera allemand. Et c'est bien parce que l'Allemagne soutient Israël politiquement et militairement et qu'elle est facile à culpabiliser que le Nicaragua l'a prise pour cible.
Donc voilà pourquoi l'Allemagne, mais pourquoi le Nicaragua, Vincent?
Et pourquoi pas, en donnant raison fin janvier à l'Afrique du Sud et en considérant qu'un génocide est plausible à Gaza, les juges de La Haye ont ouvert une boîte de Pandore. Après le génocide plausible, voici la complicité plausible de génocide plausible. Et c'est ainsi qu'à peu de frais, le camarade Daniel Ortega devient la voix du Sud global qui proteste devant l'injustice faite aux Palestiniens. L'imprécateur renfloue ainsi sa réputation. Ce n'est pas superflu parce que Ortega est un tyran. Il a fait de son pays un cloaque. Il règne depuis 16 ans avec sa femme, n'hésitant pas à l'occasion à tirer sur la foule. Et de même que les frères Castro ont fait couler pendant 60 ans infiniment plus de sang que Batista, le couple Ortega a davantage corrompu, enfermé, assassiné et contraint à l'exil les opposants par dizaines de milliers que les répugnants Somoza qu'ils avaient renversés. Tout ça fait l'objet de rapports détaillés des Nations Unies dont personne ne parle. Le sort des Nicaraguayens passionne beaucoup moins que celui des Palestiniens.
Mais l'indignation du Nicaragua contre Israël et contre l'Allemagne, Vincent, finalement, c'est une opération de relations publiques?
C'est une mascarade vue de loin, mais elle a du sens. Le Nicaragua n'a rien à refuser à la Russie. À l'ONU, il a voté contre les résolutions exigeant le retrait des Russes d'Ukraine. Et derrière la République bananière, c'est le Kremlin qui est à la manœuvre, qui aime à croire que les nazis sont toujours en place et à faire croire que tout ce qui va mal dans le monde est la faute des Occidentaux.
Ouais, passionnant. Merci beaucoup Vincent Hervouette, signature Europe 1, 7h45.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, c'est un livre de poche, un livre magique, m'avez-vous dit.
Ça s'appelle Les Mangeurs de Nuit, au livre de poche, effectivement, signé Marie Charelle. Elle est française, mais son roman se passe au Canada, première moitié du XXe siècle, entre les années 20 et 50. 50, mais le Canada, le vrai, Colombie-Britannique, le corps massif de la bête emporte le sien, écrit-elle, et ils plongent tous les deux dans la rivière. C'est toujours bien de commencer une histoire au cœur de l'action, mais là, c'est carrément une jeune fille qui se bat contre un ours. Autant vous dire qu'elle ne fait pas le poids.
Mais alors l'ours va la tuer ?
Attendez, on va voir. C'était une fausse ouverture. La page d'après, on rencontre Jack, un creek walker, c'est-à-dire une sorte de trappeur, un type chargé de compter les saumons pour le compte du gouvernement.
On appelle, métier, ça, dis donc, hein.
On appelle ça un marcheur de ruisseau aussi, c'est joli. Il est un peu rustre et un peu bourru. Il vit seul avec ses chiens, mais c'est un type droit, plein de blessures mentales. La jeune fille de tout à l'heure, je peux vous le dire, c'est Anna, une fille d'immigrés japonais. Sa mère est arrivée au Canada pour se marier avec un homme soi-disant riche, mais en fait pas du tout. Enfin riche si, mais de rêves et de poésie qu'il a transmis quand même à Anna. Au passage, c'est aussi un livre sur cette histoire incroyable et terrible de l'immigration japonaise au Canada. Je connaissais pas du tout cette histoire. C'est pas vraiment à la gloire du pays.
Vous nous aviez parlé de magie, Nicolas.
Elle arrive. Ces deux êtres se rencontrent justement parce que Jack trouve Anna dans la rivière après l'attaque de l'ours. Et la magie, elle est dans les contes et légendes qui émaillent ce roman, mais aussi chez Anna, puisque l'ours qui l'a attaqué n'était pas un ours de base. C'était un ours esprit. Mmh. Et elle a reçu à ce moment-là des dons. Et puis la magie est aussi dans les mangeurs de nuit. Je peux vous le dire parce que ce n'est pas que ça, mais les mangeurs de nuit, ce sont des grosses lucioles des contes japonais et qui donc, par leur lumière, mange la nuit, vous voyez.
C'est joli, c'est poétique. Les mangeurs de nuit, donc, au livre de poche signé Marie Charelle. Merci Nicolas. Caroline Speller, le jeu vidéo de la semaine, c'est un remake. Remake d'un jeu qui s'appelle Brothers, A Tale of Two Sons. Donc un conte, le conte des deux fils. C'est une production indépendante suédoise. Un jeu qui est sorti il y a 10 ans et qui nous plonge dans une aventure médiévale émouvante.
Oui, un conte initiatique de deux fils, comme vous l'avez dit, pas avec le « Il était une fois à la sauce » Disney, mais plus cruel et tragique comme le sont les contes de Perrault d'Andersen. On incarne alors deux frères qui se lancent dans un voyage périlleux pour trouver un remède à la maladie de leur père. Cette quête nous ouvre les portes d'un monde moyenâgeux teinté de fantaisie, à la fois enchanteur et sombre, peuplé de trolls, de griffons ou de géants.
Alors, ce jeu vidéo a révélé son réalisateur et l'a hissé presque au rang de star dans le milieu du jeu vidéo.
Oui, Joseph Fares, homme de cinéma libano-suédois, a voulu raconter des histoires interactives, celles où l'on joue activement en mettant au cœur du jeu la coopération, tout en proposant des mécaniques accessibles à tous. Dans Brothers, A Tale of Two Sons, on joue les deux frères avec une seule manette. Alors, avec la partie de gauche, on contrôle le grand frère, avec celle de droite, le cadet. Chaque main gère deux boutons, un pour le déplacement, l'autre pour les actions comme porter, grimper, saisir.
Alors, ça fait oui. L'œil gauche, indépendamment de l'œil droit.
C'est ça, il faut synchroniser les deux parties du cerveau. Au début, vraiment. C'est assez déroutant. Oui. Mais cela reflète parfaitement cette volonté de voir les frères collaborer peu à peu à l'unisson.
Alors, vous disiez que c'était un remake, Caroline. À part une refonte graphique, quoi de neuf ?
Alors, ce remake disponible en téléchargement sur PC, PS5 et Xbox Series nous permet de jouer maintenant à deux sur son canapé. On comprend vraiment qu'on ne peut rien sans l'autre, que ce soit pour interagir avec les personnages et le décor pour se frayer un chemin, pour aider par exemple des tortues à atteindre l'océan ou s'infiltrer dans le château d'un géant. Seul ou à deux, tout est pensé, Dimitri, pour qu'on puisse vivre et ressentir ce voyage initiatique. Alors si vous étiez passé à côté, ne vous privez pas de cette expérience qui ne dure que quelques heures, mais suffisant pour atteindre votre cœur.
Voilà, Brothers, The Tale of Two Sons, donc sur pratiquement tout, PS5, Xbox Series et,
c'est ça.
Et PC.
Les images sont belles, hein, ils sont un peu le look des Hobbits dans,
oui.
Ouais, dans le Seigneur des Anneaux. Ouais.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup les amis, à demain. Dans un instant sur Europe 1, votre édito politique, on va retrouver Alexis Brézet pour commenter les derniers sondages. Le Figaro a lancé son rolling en perspective des Unions Européennes, sondage quotidien. On va voir ce que ça donne, c'est très à l'avantage notamment de Jordan Bardella. Mais d'abord, à 7h49, le journal permanent, Nina Pavan.
Il joue les prolongations ce matin. Les discussions reprennent à 10h entre syndicats et patronat pour tenter de trouver un accord sur l'emploi des seniors. Le Rassemblement national signe une nouvelle prise en vue des européennes de juin. Mathieu Vallée, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, rejoint la liste de Jordan Bardella. Deuxième jour de garde à vue pour la maire d'Avallon dans l'Yonne, mise en cause après la découverte dans l'une de ses propriétés de 70 kilos de cannabis et dans des résidences de certains de ses proches de cocaïne et plusieurs lingots d'or. À Marseille, hommage rendu ce matin à 10h45 aux victimes de la rue de Tivoli, un an jour pour jour après les effondrements qui ont fait 8 morts suite à une explosion de gaz. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de familles sont toujours sans logement.
Bon réveil avec Europe 1, il est 8h10.
Chez Grand Frais, nous travaillons en direct avec plus de 1000 producteurs français comme Amandine, notre productrice salade. Elle nous donne toujours rendez-vous à 4h du mat, mais bon, ces salades sont exceptionnelles.
Alors, t'as réussi à te lever ?
Ça pique un peu, Amandine, là.
Chez Grand Frais, nous sommes prêts à tout pour dénicher les bons producteurs et les bons produits pour vous proposer chaque jour plus de 300 fruits et légumes ultra frais. Grand Frais, sélectionneur passionné de producteurs passionnés.
7h, 9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézé.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alexis, on va parler des élections européennes. Une enquête IFOP pour le Figaro publiée hier indique que l'écart est en train de se creuser entre la liste RN emmenée par Jordan Bardella et la liste Renaissance de Valérie Ayé. Que faut-il en conclure, Alexis ?
Eh bien, qu'à 2 mois du scrutin européen, la stratégie électorale imaginée par Emmanuel Macron et scrupuleusement mise en œuvre par Gabriel Attal et les responsables de la majorité, eh bien que cette stratégie ne fonctionne pas. Rappelons-la en 2 mots, ou plutôt en 1 mot et 2 lettres. Ukraine, RN. L'idée, alors pas subtile, reconnaissons-le, c'était de focaliser toute la campagne sur l'Ukraine et sur le RN. Un jour, on parlait de l'Ukraine pour dire que la guerre est à nos portes et que Poutine fait courir à la France un risque existentiel. Et le lendemain, on attaquait le RN en expliquant que ses dirigeants, voire ses électeurs, sont les alliés de Poutine. En brandissant ces 2 épouvantails, les macronistes espéraient aller jusqu'au scrutin sans coup férir ni vraiment faire campagne, comme aux européennes de 2019, comme à la présidentielle de 2022. Eh bien, on le pressentait, et là maintenant on peut le dire, c'est raté. Si les Français ne se désintéressent pas du sort des Ukrainiens, ils ont aujourd'hui d'autres motifs de préoccupation, et notamment l'explosion de la dette et des déficits qui inquiètent tout particulièrement les seniors, c'est-à-dire le cœur de l'électorat Macron. Quant à la polarisation de la campagne sur le RN, alors peut-être parce qu'elle a déjà beaucoup servi, la ficelle ne semble plus très efficace. Jordan Bardella, qui certes ne prend pas de risques inutiles, poursuit son bonhomme de chemin. Et ce n'est pas l'effroyable litanie de faits d'ultra-violence à l'école, à l'hôpital et ailleurs, sur fond d'islamisme radical et d'immigration sans contrôle, qui devrait le faire reculer. Ajoutez à cela que la liste PS, emmenée par Raphaël Glucksmann, commence à exercer sur la gauche de la Macronie une dangereuse concurrence, et vous aurez les 2 mâchoires de la tenaille politique qui angoissent Valérie Ayé.
Alors face à ce constat, comment réagissent les responsables de la majorité, Alexis ?
Ah ben, très simplement, par un virage à 180 degrés. Fini d'agiter le chiffon russe. Après avoir cherché par tous les moyens à ukrainiser la campagne, on s'emploie maintenant à l'européaniser. Dorénavant, et c'est pas toujours simple, il faut mettre en avant, je cite, « les réalisations concrètes de l'Europe du quotidien ». Fini aussi de faire de Jordan Bardella l'épicentre de tous les débats. Hier, les macronistes expliquaient que Raphaël Glucksmann, finalement, aurait pu figurer sur la liste de la majorité. Aujourd'hui, c'est sur ce dangereux gauchiste qu'ils doivent taper. Même le gouvernement, qu'on avait gentiment prié de ne rien faire jusqu'aux Jeux Olympiques, est sommé de remettre du charbon dans la machine à réforme. Désormais, le président l'exige tous les jours une nouvelle idée.
Vous voulez dire, Alexis, qu'Emmanuel Macron, dans ce grand tournant, prend sa responsabilité, il en l'assume.
Vous plaisantez, Dimitri. Reconnaître ses erreurs, c'est pas le genre de la maison. Il y a 3 jours, au contraire, le chef de l'État m'originait Bruno Le Maire en expliquant qu'on ne fait pas mine de découvrir la dette et les déficits quand on est là depuis 7 ans. Alors bon, c'est pas faux, mais enfin, ils sont arrivés ensemble et Le Maire, lui, n'est pas président. Le président, dans la foulée, admonestait Gabriel Attal en lui reprochant de ne pas avoir, je cite, « donné du sens à la réforme sur l'assurance chômage ». Hier, il a accusé ses ministres de « péter la confiance », sont ses mots, en peignant, tenez-vous bien, la situation budgétaire en noir. Et demain, si ça se trouve, il reprochera à Gérald Darmanin de ne pas avoir fait reculer l'immigration et la sécurité. Bref. Si tout va mal, si les élections européennes s'annoncent calamiteuses, ce n'est pas que la stratégie d'Emmanuel Macron est mauvaise, c'est que ses consignes, vous l'aurez compris, ont été mal comprises et mal exécutées.
L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézé. À la une du Figaro ce matin, la pratique de la lecture qui s'effondre chez les jeunes. Les 7-19 ans, on est à 3h11 d'écran par jour en moyenne, contre 19 minutes de lecture, c'est-à-dire 10 fois moins. Sachant que la moitié des jeunes font autre chose quand ils lisent notamment, et ils lisent surtout des BD et des mangas. Voilà, on en parlera tout à l'heure dans la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde. Merci beaucoup Alexis.
Il est 7h55, très bon début de journée avec Europe 1, nous sommes le mardi 9
avril. Et il y a 49 ans, le 9 avril 1975, attention, devinette, vous pouvez même jouer en voiture et à la maison, une troupe de loufoques anglais sortait ce film. Écoutez.
Camelot.
C'est mon type.
Camelot. Camelot.
Alexis, vous l'avez.
Monty Python.
Monty Python, sacré Graal, qui sortait le 9 avril 1975, l'occasion de le revoir, pourquoi pas.
Ah bah oui, le chevalier, The Knights Who Says Me. Merci, vous avez bien fait de nous le rappeler, Anissa. Nous fêtons ce jour Saint-Gauthier, né en Picardie, professeur de philosophie aux alentours de l'an 1000. Il devient moine et n'a qu'un seul désir, prier, mais il est si brillant que le pape Grégoire VII lui-même lui ordonne de prendre la charge de l'abbaye de Pontoise. C'est un peu votre destinée, quelque part, Alexis Brézet. Allez, bon réveil avec Europe 1 dans la prochaine heure. Le retour de Gaspard Proust à 8h30, on parlera crime d'honneur avec Emmanuel Ducrot. Et dans un quart d'heure, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, l'ancien commissaire de police Mathieu Vallet. Il a choisi Europe 1 pour annoncer son ralliement à la liste de Jordan Bardella aux élections européennes. Dans un instant, la météo et votre journal.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Bientôt 8h sur Europe 1, Anissa Haddadi, mardi, très agité dans le ciel.
Oui, une journée compliquée encore avec le passage de cette dépression Pierrick qui est arrivée hier en fin de journée par la Bretagne, qui a balayé cette nuit une grande partie de la France. On pense notamment au département de l'Yonne, de la Marne ou encore du Gers. De nombreux départements touchés par des chutes de grêle avec des grêlons 4 cm de moyenne pour le diamètre. Donc c'est vrai que c'était très impressionnant dans certaines régions. Ce matin, c'est toute la façade est qui se retrouve sous la pluie avec cette dépression qui est en train de s'évacuer vers les pays de l'Est. Alors entre l'Alsace et les Alpes, c'est encore très humide ce matin. On a même de la neige en montagne à partir de 1000 mètres. Des orages également sur les Alpes de Haute-Provence, de la neige sur le massif central. Cet après-midi, c'est un ciel de traîne qui se met en place avec un ciel qui va alterner entre nuages, éclaircies et petites averses pour tout le monde. Il n'y a quasiment aucune région qui sera au sec cet après-midi. Peut-être le pourtour méditerranéen. Attention, on a 7 départements vigilance orange pour vagues submersion, des rafales de vent jusqu'à 100 km/h avec des coefficients de marée élevés et des cumuls de pluie. Donc ça peut être très dangereux. Ne vous baladez pas en bord de mer, surtout entre les Hauts-de-France et la Bretagne. Les températures sont en chute libre cet après-midi. 9 à 22 degrés par endroit. On perd jusqu'à 10 degrés, 18 degrés en moins à Grenoble.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à vous. Bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 9 avril, il est 8h.
Je suis aussi énervée parce que je me dis que, genre, dans tous les cas, peu importe la peine qu'ils vont prendre, ceux qui ont fait ça, bah ça va pas le ramener en fait. Ils l'ont quand même tué et ça, c'est un acte irréparable.
La colère et l'émotion ne retombent pas à Viry-Châtillon après la mort de Shamseddine, 15 ans. Ses obsèques auront lieu cet après-midi à 14h. Les amis de la victime sont traumatisés par sa disparition. Reportage Europe 1 dans un instant. Éric Dupond-Moretti lui est attendu de pied ferme par les sénateurs de la commission d'enquête sur la lutte anti-drogue. Son recadrage de magistrats marseillais démunis face à l'ampleur du trafic ne passe toujours pas. Les élections européennes, c'est dans 2 mois, jour pour jour. Et dès hier, la campagne s'était en direct sur Europe 1 et CNews, face à face tendue entre Valérie Ayer pour Renaissance et Marion Maréchal pour Reconquête, notamment sur l'immigration. Dans ce journal également, la stratégie du gouvernement pour développer les soins palliatifs, la flamme olympique qui va prendre le large cet été direction la Guadeloupe. Et puis juste après ce journal, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, c'est aussi un invité exceptionnel. Bonjour Sonia.
Merci, bonjour à vous Dimitri, bonjour à tous. Notre invité Mathieu Vallet, alors nous le connaissions en tant que porte-parole du syndicat des commissaires de police. Il se lance désormais en politique et ce sera sa première prise de parole pour expliquer son ralliement au Rassemblement National. À tout à l'heure.
Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Victor Pourchet, bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Son prénom est sur les mots d'enfant déposés entre les fleurs devant son collège. Shamseddine, 15 ans, va être inhumé près de Viry-Châtillon. Le collégien lynché simplement parce qu'il envoyait des messages à la sœur de deux de ses agresseurs, toujours incompréhensibles pour les habitants de la ville de l'Essonne. Reportage Europe 1 signé Thibault.
Dans les rues de Viry-Châtillon, le calme pesant et l'émotion qui ne retombe pas. Sur sa trottinette, Martin, un élève de 6e, connaissait bien Shamseddine. La violence du décès de son ami a secoué le jeune garçon.
On était très proches, ça m'a fait mal au cœur, j'ai pleuré beaucoup pendant 2-3 jours. C'était une histoire d'amour.
Je comprends pas pourquoi on peut tuer des gens juste pour ça.
Nélia, scolarisée dans le même collège que la victime, elle non plus ne parvient toujours pas à encaisser la perte de son camarade.
J'arrive pas à me dire qu'il est vraiment mort. Genre pour moi, il va revenir. Genre, en tous les cas, peu importe la peine qu'ils vont prendre, ceux qui ont fait ça, bah ça va pas le ramener en fait.
Et les habitants du quartier sont aussi sous le choc. Marie, qui habite à deux pas des lieux du drame, craint de nouveau règlement de compte.
Il suffit d'une première fois pour qu'après les gens ripostent. Ça peut se reproduire malheureusement si on fait pas ce qu'il y a à faire par rapport à ça. Que les forces de police aussi fassent un peu leur boulot, fassent des rondes, hein, surtout à proximité des collèges, des lycées.
Les obsèques de l'adolescent de 15 ans se tiendront aujourd'hui dans une commune voisine, en attendant une marche blanche pour rendre hommage à Chemseddine.
Thibaut Hu pour Europe 1, et je vous rappelle que les 4 suspects sont mis en examen pour assassinat dans cette affaire. Dans l'actualité également, cette nouvelle découverte au Auvergnat, un fragment d'os du petit Émile retrouvé dans la même zone où son crâne et ses vêtements avaient été découverts. Les analyses sont en cours, mais la mort de l'enfant reste pour l'heure inexpliquée.
Europe 1, il est 8h03, le face-à-face s'annonce tendu. Éric Dupond-Moretti est sommé de s'expliquer devant les sénateurs cet après-midi pour ses propos il y a quelques semaines sur le narcotrafic.
Tout part d'un constat de magistrats marseillais devant cette même commission d'enquête. L'État est en train de perdre la guerre contre les dealers, disait-il. Le ministre de la Justice les avait alors fermement rappelés à l'ordre, provoquant la colère de ces sénateurs qui ne manqueront pas de le lui rappeler tout à l'heure. Explication Mayalène Trémolé.
C'est au tour du garde des Sceaux de répondre sous serment des résultats de la lutte contre le narcotrafic et éventuellement de son accès de colère à Marseille face aux magistrats sidérés. Étienne Blanc, sénateur LR, rapporteur de la commission, rappelait fin mars au ministre ses obligations lors des questions au gouvernement.
Cela s'appelle de la subornation de témoins, car la commission est encore en cours d'enquête. Le Sénat fera son travail pour prévenir les Français de ce phénomène de narcotrafic qui vous dépasse et qui dépasse le gouvernement. Ça vous déplaît ? Vous êtes là pour me répondre, comme vous serez là pour répondre à la commission d'enquête.
Éric Dupond-Moretti campe sur ses positions, assume ses reproches aux magistrats et dénonce les discours défaitistes.
Vous avez, sur Europe 1, indiqué que j'aurais violé la séparation des pouvoirs. Je ne retire rien. Oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on l'a perdue.
Le garde des Sceaux qui n'a pas manqué de rappeler l'augmentation record de plus de 60% du budget du ministère depuis 2017, toujours considérée comme insuffisante par les magistrats.
Début de l'audition prévue à 16h30.
Dans deux mois, jour pour jour, les élections européennes. Premier débat hier soir sur Europe 1 et CNews entre Valérie Ayer et Marion Maréchal.
Les têtes de liste de la majorité de Reconquête, pas d'accord sur l'agriculture, pas d'accord sur la sécurité et bien sûr sur l'immigration, notamment sur le pacte asile et migration. Il doit être voté au Parlement européen dans les prochains jours et il prévoit la répartition des migrants dans les différents pays de l'Union.
La France va être bénéficiaire du mécanisme de solidarité. Aujourd'hui, les pays qui sont de première entrée, c'est l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France. Et qu'est-ce qui se passe ? Viktor Orban en Hongrie refuse d'accueillir des migrants. L'enjeu demain, avec le texte qu'on va voter la semaine prochaine, c'est que chaque pays, les Slovaques, les Polonais, les Roumains, les Suédois, prennent leur part pour accueillir les migrants.
Madame Ayer, évidemment, elle ne comprend pas qu'il y ait des pays qui ne veulent pas subir la répartition des migrants. Je suis toujours sidérée de voir que vous ne tenez pas compte aujourd'hui du poids social, identitaire, culturel et sécuritaire que fait peser l'immigration dans notre pays. Vous n'en parlez jamais. Mais même aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur fait le lien entre immigration et insécurité.
Et sur ces élections européennes, je vous rappelle que juste après ce journal, Sonia Mabrouk reçoit Mathieu Vallée, nouveau membre de la liste Rassemblement National pour ce scrutin. À l'étranger, Israël a fixé la date pour son offensive de Rafah à Gaza, affirme Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui ne dévoile évidemment pas cette date. Dans la foulée, opposition ferme des États-Unis sur cet assaut dans la ville frontalière de l'Égypte, le Caire qui signe avec la France et la Jordanie une tribune aujourd'hui pour demander un cessez-le-feu immédiat.
Et dans un instant sur Europe 1, parole de soignants, des soignants loin d'être rassurés. Ils doutent beaucoup de l'efficacité du plan de l'exécutif pour développer les fameux soins palliatifs. A tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 8h07 sur Europe 1, la suite du journal. Dimitri Pavlenko, Victor Pourchet.
Avec cette question, le gouvernement a-t-il les moyens de ses ambitions sur les soins palliatifs ? La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, présente demain le projet de loi sur la fin de vie en Conseil des ministres. Elle le détaillait hier, ce plan, dans un hôpital de Villejuif près de Paris. Plus d'un milliard d'euros supplémentaires mis sur la table, entre autres, pour créer des unités de soins palliatifs dans 21 territoires qui en sont aujourd'hui dépourvu, Yasmina Katou.
Oui, au moins 11 nouvelles unités de soins palliatifs seront créées avant la fin de l'année. L'objectif est que chaque département puisse proposer ses soins en 2025. Une annonce que salue Claire Fourcade. Cependant, la présidente de la Société française de soins palliatifs se questionne sur la faisabilité du projet.
Dans une unité de soins palliatifs, il faut au minimum 2 médecins et il faut un binôme infirmière et aide-soignante pour 5 ou 6 patients. Il faut ça jour et nuit, 365 jours par an. Donc ça représente en termes de ressources humaines une quinzaine de soignants et au moins 2 médecins, plus un psychologue, une assistante sociale. Enfin, donc on ne peut pas créer des unités low cost dans tous ces endroits s'il n'y a pas d'unité jusqu'à présent, c'est parce qu'il n'y avait pas de personnel à mettre dedans.
Le gouvernement souhaite par ailleurs mettre en place des maisons d'accompagnement, un espace hybride dédié aux malades qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils sont seuls par exemple. Enfin, alors qu'il n'existe aucune spécialisation en médecine palliative aujourd'hui à la fac, le plan prévoit la création d'une formation et espère ainsi susciter des vocations.
La spécialiste santé d'Europe 1, Yasmine Nakatou, autre chantier pour le gouvernement, l'emploi des seniors sur lequel il attend la fin des négociations entre partenaires sociaux. Pas d'accord trouvé hier soir entre le patronat et les syndicats. Il se retrouve à 10h pour une ultime tentative. Gérald Darmanin essaye de rassurer. Il n'y a pas pour l'heure de menace terroriste caractérisée sur les Jeux Olympiques. Il donne également une date, le 10 mai, à cocher pour les Parisiens habitant dans le périmètre de sécurité des JO. Ce sera celle à laquelle le site pour obtenir une autorisation de circulation ouvrira.
Les Jeux Olympiques, justement, Armel et Marie-Jo sur un bateau. C'est pas le début d'une blague, hein. C'est l'équipage qui transportera la flamme olympique à travers les Antilles.
Et on espère que, comme dans la blague, elle ne tombera pas à l'eau. Peu de risques, il faut le dire. On sait depuis hier que le skipper Armel Lecléache sera accompagné notamment de la mythique championne Marie-Josée Pérec-Martin-Lange.
Oui, un équipage de stars avec d'abord une championne olympique, Marie-Josée Pérec, tellement enthousiaste à l'idée d'emmener la flamme sur son île qu'elle a elle-même écrit à Lecléache.
C'est vraiment un beau symbole. Je suis la première championne olympique de la Guadeloupe. Je trouvais qu'il y avait une belle histoire en fait à écrire, une belle reconnaissance hein, pour l'outre-mer, pour la Guadeloupe. Alors je dis pas que j'ai pas peur, hein, j'ai les pétoches.
Avec elle, un chef étoilé, Hugo Rollinger, une Miss France, Marine L'Orphelin, également médecin. De quoi rassurer le comédien Alexis Michalik, le dernier moussaillon.
C'est toujours bien d'avoir un médecin à bord quand je commencerai à avoir le mal de mer au bout de 10 minutes, je pense.
Pour gérer cette joyeuse troupe, Armel Lecléache, capitaine, forcément fier, mais surtout exigeant.
On les a pas pris pour faire une croisière, hein. Ils vont pas être dans leur cabine et puis regarder la mer passer. Non, ça va être vraiment eux qui vont être acteurs. On va faire des quarts. Il y aura 2 quarts de 3, parce que de toute façon, il y a que 3 couchages à bord du bateau, donc il y aura pas le choix. Les 3 autres seront sur le pont en train de gérer la sécurité, la manœuvre et puis voilà, la conduite du bateau.
La grande aventure, ça commence le 7 juin, départ du port de Brest. Mais avant, tout ce petit monde se retrouvera à Lorient pour un entraînement à vitesse réelle.
Ouais, il y a bien besoin d'entraînement, je pense, pour ce sacré périple.
Merci Victor Pourchet, c'était votre journal. Allez, à suivre dans un instant sur Europe 1. L'ancien commissaire et donc tout nouveau sur la liste de Jordan Bardella, Mathieu Vallet est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Tout de suite sur Europe 1, Mathieu Vallet est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue, bonjour Mathieu Vallet.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews Europe 1. Alors vous êtes ancien responsable de la BAC dans le Val-de-Marne, Mathieu Vallet. On vous a connu aussi très bien sur ce plateau et sur la radio aussi en tant que porte-parole du syndicat des commissaires de police. À ce titre, vous interveniez très souvent dans les médias, puis vous avez demandé une mise en disponibilité à votre hiérarchie. Et aujourd'hui, vous ne vous êtes pas encore exprimé, Mathieu Vallet. Est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer ce qui est dit, ce qui tient pour l'instant de l'ordre de la rumeur que vous rejoignez le Rassemblement National et la liste de Jordan Bardella en vue des européennes?
Oui, Sonia Mabrouk, donc j'ai la fierté de rejoindre le grand mouvement populaire de Marine Le Pen et Jordan Bardella sur sa liste aux élections européennes du 9 juin. Cette liste qui me paraît essentielle pour redresser notre pays et remettre la France en ordre.
Pourquoi précisément le Rassemblement National, Mathieu Vallet? Pourquoi pas la droite LR? Pourquoi pas Reconquête? En quoi, justement, ce n'est pas lié au bon sondage en ce moment du Rassemblement National?
Vous savez, je rejoins un grand mouvement populaire qui a la prétention de changer et qui démontre et qui démontrera qu'il peut changer la vie de tous ces Français, ces ouvriers, ceux qui servent l'État, ces premiers de cordée, ces chefs d'entreprise, ces agriculteurs. Et donc j'estime aujourd'hui que dans une France qui est en état d'urgence absolue, on voit que toutes nos institutions sont en train de s'effondrer. À l'hôpital, les soignants et le personnel soignant n'en peuvent plus. On a des patients qui meurent aux urgences, les agriculteurs se suicident tous les 2 jours. Les policiers et les gendarmes sont frappés aussi par le suicide, sans parler d'un policier et d'un gendarme qui, toutes les demi-heure en France est blessé. Et donc, comme moi, je ne sais premier de cordée, hein, j'ai commencé gardien de la paix dans la police nationale, et ben j'estime que je rentre dans ce grand mouvement populaire porté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui aujourd'hui, à mon sens, aura le seul parti, le seul courage de défendre tous les Français de cœur et d'esprit, pour porter haut la main ce parti qui changera et redressera notre pays.
Après Fabrice Leggeri, c'est l'ancien patron de Frontex, et l'essayiste Malika Soral, c'est donc un commissaire de police, un policier qui intègre la liste RN. Quand est-ce que vous avez été approché, Mathieu Vallée? Puisque jusqu'en décembre, pour reprendre ce que vous disiez, vous niez toute ambition politique, vous avez dit « ce sont des rumeurs, on ne m'a rien proposé et je n'ai rien demandé ».
D'abord, pendant 6 ans, j'ai eu l'honneur et la fierté de porter la parole d'un grand syndicat de police qui est apolitique et dans lequel je n'avais aucune ambition politique. Quand on m'a prêté ces ambitions, effectivement, je n'y pensais absolument pas. On m'avait rien proposé. Jordan Bardella me l'avait absolument pas parlé. Il y a quelques semaines, il m'a fait l'honneur et la fierté de me proposer de rejoindre ce grand mouvement. Et en réalité, je me suis pris un délai de réflexion. Et dans les jours, j'ai dit oui, parce que c'est quelque chose qui change une vie, qui change un parcours. Et puis moi, qui depuis 20 ans, vous savez, je n'étais pas grand-chose et je venais de nulle part, dans une cité populaire du nord de la France, élevé seul par ma mère, d'une mère d'origine espagnole, et en réalité, on m'a rien donné. Par le mérite, le travail, l'effort, et je pense que c'est là où on s'est rejoint avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est que, en réalité, moi, j'étais tout cherché avec les dents. Et comme beaucoup de Françaises et de Français, à la sueur de notre front, au dur labeur de notre travail, j'ai obtenu tout ce que j'ai obtenu par la seule force du travail, pas par la connivence, pas par les réseaux.
Il y a une comparaison entre le parcours de Jordan Bardella, dites-vous, si je vous entends bien, et le vôtre?
Mais Jordan Bardella, il est issu de la Seine-Saint-Denis. Il a grandi avec sa mère à Saint-Denis. Moi, j'ai grandi dans une cité d'une tour de 15 étages au nord de la France à Lille, où il y avait des dealers, où il y avait de l'insécurité, où j'ai vu tous les jours ces policiers qui luttaient contre le délitement de la République pour l'unité des Français. Et en réalité, c'est eux qui m'ont donné envie d'embrasser cette carrière au service de l'État. Pendant 20 ans, j'ai consacré ma vie à protéger les Français comme 152 000 policiers et 100 000 gendarmes. Et c'est ça ma plus grande fierté, c'est que ça, on l'enlèvera pas. J'ai toujours aimé ce métier, c'est une passion. Et policier, j'ai été policier dans mon cœur, je resterai. Et je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella me donnent la formidable occasion de porter les couleurs de mon institution, de tous les Français au Parlement européen, si les Français nous font confiance le 9 juin.
On va y revenir, mais qu'est-ce que vous dites ce matin à vos collègues policiers, policières, qui peut-être ne s'attendaient pas, ont entendu des rumeurs depuis quelques semaines? Est-ce que vous comprenez que certains s'interrogent sur une éventuelle double casquette à un moment, lorsque vous portiez leurs paroles?
Non, mais il n'y a jamais eu double casquette. Moi, j'ai toujours été consacré sur la mission qu'on m'a confiée. Et au même moment, en décembre, mon syndicat avait pris ses dispositions. À la première rumeur, dans aucun autre pays du monde on ferait ça, dans la première rumeur, on m'a demandé de quitter mes fonctions, ce que j'ai fait d'un commun accord. Je ne regrette rien et j'assume tout. Je suis très fier de ce que j'ai fait pendant 6 ans. Je l'ai fait pour les policiers et les gendarmes, que j'aime tant. Et je vais vous dire, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont toujours défendu les policiers et les gendarmes de la République. Et c'est aussi un de mes choix qui a guidé, et une des raisons qui a guidé mon choix au sein de ce parti. Et donc, en réalité, je dis à mes collègues et aux camarades de la gendarmerie, je les ai défendus, j'ai porté des combats difficiles avec d'autres syndicats d'ailleurs et d'autres policiers et gendarmes. Ensemble, on est plus forts et unis, on est plus forts aussi. Et aujourd'hui, je donne un autre engagement à ma vie, à mon parcours.
Alors parlons-en, parce que vous assumez tout, évidemment, votre parcours, oui. Vos origines, Mathieu Vallée. Vous êtes d'origine espagnole. Et une autre recrue récente du Rassemblement National, Malika Soral, je l'ai dit, est d'origine algérienne. Est-ce que des profils comme vous, donc d'origine étrangères, est-ce que vous pouvez vous intégrer naturellement, facilement au Rassemblement National? Est-ce que ça vous paraît évident aujourd'hui?
Mais ce qui est formidable, c'est que dans ce parti, on peut venir d'ailleurs et devenir d'ici. Et en réalité, Jordan Bardella a des origines italiennes, Malika Soral a des origines algériennes, moi j'ai des origines espagnoles. Donc beaucoup de partis parlent de l'immigration, beaucoup de partis donnent des grands principes, des grandes leçons à tout le monde. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella, eux, ont le courage et la force de porter des parcours de ceux qui se sont intégrés, de ceux qui se sont assimilés, de ceux qui ont toujours à la sueur de leur front monté les échelons, l'escalier social de cette République. Moi j'ai été gardien de la paix, officier et commissaire par les concours, par le travail, l'effort et le mérite. Et c'est ça qui est magnifique dans cette institution, la police nationale et la gendarmerie, pardon d'être un peu corporatiste encore, mais c'est la plus belle institution au monde. Quel pays au monde permet à des enfants qui viennent de nulle part, des enfants qui n'ont rien eu et qui sont très modestes, par l'effort, le travail et le mérite, de pouvoir se hisser? Pour moi, c'est très important.
Donc vous dites que le Rassemblement National est le parti aujourd'hui qui permet finalement à ces enfants, parfois d'immigrer, d'être reconnus par la méritocratie?
Mais tout à fait. Nous, on n'est pas anti-étrangers dans ce parti, on est pro-français. Et être français, c'est dans le cœur et c'est dans l'esprit. Voilà, c'est ça notre réalité. Et ce parti, pour moi, aujourd'hui, il évolue. Vous avez des nombres élus. Vous avez eu ces députés du Rassemblement national qui ont été élus et qui viennent du peuple. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux. Ils sont modestes, ils sont humbles, ils sont simples. Et comme on dit chez moi dans le Nord, c'est pas des péteux. Ils ne la racontent pas. C'est des gens qui pensent qu'aux Français, à leurs problèmes, et qui ont la seule ambition et la prétention de porter des propositions pour résoudre leurs problèmes au quotidien.
Y compris si vous participez à la normalisation, à la crédibilisation, à la dédiabolisation du Rassemblement national. Vous balayez tout ça ou alors c'est une stratégie aussi consciente et ouverte?
J'ai 38 ans, Sonia Mabrouk, et moi je regarde le futur et je regarde l'avenir. Je regarde pas le passé. Et j'ai toujours été républicain. Donc, moi, je vais dans un parti qui est un grand parti républicain et qui aujourd'hui, pour moi, incarne le seul espoir et la seule espérance pour les Français. Vous me parlez des républicains, ils parlent comme nous, ils pensent comme nous, mais ils n'ont pas encore le courage de venir intégrer les rangs du Rassemblement national. Et vous me parlez de Reconquête. Reconquête, par rapport au Rassemblement national, c'est pas un parti aujourd'hui qui a l'ambition d'être un parti de gouvernement avec des idées, avec une capacité à porter tous les Françaises et les Français, quelle que soit leur origine et leurs conditions sociales, au plus haut niveau de notre pays, parce que c'est la prévention.
Vous envoyez déjà des flèches politiques, c'est déjà
pas
le
du
politique.
J'essaie de parler à mon cœur.
D'ailleurs, une question, vous êtes sur la liste Jordan Bardella. Quelle position? Est-ce que vous êtes parmi les 10 premiers sur cette liste?
J'imagine que vous savez, mais là, je montre ma cohérence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées, c'est l'avenir de notre pays, c'est pas ma personne.
Une position, c'est toujours important.
Oui, bien sûr, mais vous savez, si j'avais voulu choisir le confort et la tranquillité, je serais resté commissaire de police. J'avais une carrière tracée, vous avez des échelons, des grades qui sont prévus. Je prends un risque minime par rapport à ce que mes collègues et les gendarmes prennent sur le terrain. Mais on peut pas me taxer d'opportunisme parce que l'opportunité aurait été de rester dans la police nationale tranquillement. D'ailleurs, certains qui m'aiment bien m'ont convaincu, ont voulu me convaincre de vouloir rester. Et moi, j'ai dit non. Je le fais pour mon pays, je le fais pour la France, je le fais pour ce plus beau pays du monde, ce plus grand pays du monde qui est la République française.
Et la réponse à ma question dans les 10 premiers sur la liste?
Oui, j'imagine, mais bon. Ça viendra en temps voulu. D'abord les idées.
On va rentrer dans les détails. Et les idées, Mathieu Vallée, parce que vous avez été en première ligne lors des différentes crises dans notre pays, les différents mouvements sociaux, les émeutes, les grands problèmes également. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui que vous ne pouviez pas dire à l'époque parce que vous aviez une période de réserve sur le gouvernement et sur l'État en particulier?
Moi, je dis que dans la Macronie, c'est toujours les deux phases. C'est plein de promesses et après c'est plein de paresse. On nous avait promis avec l'article 24 de la loi sécurité globale de protéger le lynchage et la diffusion des images des policiers. Ça n'a jamais été représenté quand le Sénat a changé l'article et que c'était censuré par le Conseil constitutionnel. Le 1er mai 2023, vous avez un policier, un gardien d'appel de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris qui a été brûlé par des antifas en plein Paris. On nous avait promis que les préfets, en qui j'ai grande confiance et le parti fait aussi confiance, pourrait interdire ces factieux, ces individus qui viennent semer le chaos et la violence de ces manifestations. Ça n'a jamais été présenté non plus, c'est le président de la République qui nous l'avait promis. Vous avez aussi toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc moi, ce que je dis, c'est que je suis dans un parti aujourd'hui où on ne fera pas que parler et du blabla, on fera d'abord de l'action, des actes, parce qu'il y aura le courage de porter ses idées et d'améliorer la vie des Français et de protéger ceux qui nous protègent.
En quoi ces promesses non tenues, de votre point de vue, ont conduit dans la situation du pays? Parce que là, nous parlons de crise de l'autorité, nous parlons aussi dans l'actualité de crimes barbares après Viry et Châtillon. Est-ce que l'État a une responsabilité, selon vous, dans ce délitement, dans cette déliquescence?
D'abord, quand vous avez un président de la République qui, sur le média brut, dit qu'il y a des violences policières et des contrôles aux faciès, il ne soutient pas les policiers. Ensuite, quand après l'affaire Naël, où ce policier Florian, qui a donné et consacré toute sa vie à la République et dont le président a sacrifié sa présomption d'innocence sous l'autel d'acheter la paix sociale dans les banlieues, on voit qu'il a eu le déshonneur et la guerre. Moi, j'étais engagé sur les émeutes durant ces nuits.
Le déshonneur et la guerre?
Bien sûr, puisqu'on a des voyous qui nous ont fait la guerre. Quand on brûle des commissariats, quand on brûle des mairies, quand on brûle des services publics, quand on brûle la maison de ceux qui n'ont plus rien.
La faute à l'oisiveté notamment, a dit le président de la République, c'est le bon diagnostic.
Non, la faute à la lâcheté politique. Et moi, vous savez, je suis issu d'une cité, et le misérabilisme et le clientélisme politique, ça m'intéresse pas. Et pendant des années, on nous a considérés comme des clients à qui il fallait maintenir la cistana pour qu'on soit des gens qui votaient pour les bons partis. On nous a demandé finalement de rester dans l'entre-soi. Vous savez, les grandes écoles, les grands parcours, les grands postes, les grandes fonctions, c'était pas pour les gens comme moi. J'ai même des professeurs, certains qui me l'ont dit. Mais la majorité des professeurs de la République, je pense par exemple à Mme Tully, on n'oublie jamais ses noms d'histoire géo par exemple, m'a toujours porté, quelle que soit la condition sociale et l'origine, parce que c'est ça aussi le courage de nos professeurs aujourd'hui, ces hussards noirs de la République qui sont assassinés. de Samuel Paty, Dominique Bernard, ont quand même payé de leur vie la transmission des savoirs, l'émancipation de la République.
Mais quel est le sursaut? Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'État? La ministre de l'Éducation a réfuté toute responsabilité dans tout l'enchaînement qui a conduit
l'État,
à l'attaque
l'État,
de
l'État,
Samuel Paty.
L'État, c'est les femmes et les hommes qui, chaque jour, soignent les Français, les protègent, les assistent. Mais il y a des responsabilités politiques, bien sûr. Il y a une responsabilité politique, la lâcheté, le manque de courage, et surtout, le fait que le Rassemblement national sera le seul parti à remettre la France en ordre, font que on aura le courage. Non, moi je pense que c'est une vraie ligne idéologique, ouais.
Avec, par exemple, si on prend la crise d'autorité à l'école, plus que crise d'autorité, d'ailleurs certains parlent d'ensauvagement. Est-ce que pour vous, il faut changer totalement de logiciel? Mais, ou par exemple aller sur l'impunité justement, ou en tous les cas lever l'excuse de minorité pour les plus jeunes?
Mais vous avez vu ce garçon de 15 ans, Chamseddine, qui a été littéralement massacré par des sauvages en partant de l'école et en rentrant chez lui. Quand on voit aujourd'hui que ce n'est plus l'ultra-violence, mais l'ensauvagement qui est en train de décimer tous les pans entiers de notre société, et elle est en train d'emporter ce qu'on a de plus beau, ce plus important, c'est notre jeunesse. Et par exemple, au Rassemblement national, on a des mesures, on n'est pas dans le blabla. On propose d'abaisser la majorité pénale à 16 ans, on propose de supprimer les allocations familiales liées aux enfants, aux parents démissionnaires, on propose d'expulser des logements sociaux ceux qui bénéficient de la solidarité nationale et qui finalement n'en sont pas à la hauteur, à la dignité, en ne s'occupant pas des enfants. On propose des peines minimales, c'est que dès que la première infraction, on puisse tout de suite condamner par des juges qui seraient soutenus et qu'il y aurait une politique pénale en ce sens, des peines planchées pour ceux qui se foutent de la gueule de la police et de la justice avec des multi-récidivistes qui font les mêmes infractions. Vous voyez, toutes ces propositions, le gouvernement n'a pas le courage de les mettre en place. Dans ce parti, on aura le courage non seulement de les mettre en place, de les assumer, mais en plus de faire en sorte que ça change réellement la vie des Français.
Proposition d'ailleurs que vous teniez un peu ou prou dans les médias avant votre ralliement au Rassemblement national.
C'est justement parce que je trouve dans ce Rassemblement national des propositions qui correspondent à ce que je portais qu'aujourd'hui, je le fais dans ce parti.
Un mot aussi sur l'immigration, évidemment, oui. Thème essentiel. En tant que candidat sur la liste RN aux européennes, vous aurez beaucoup à en parler. Mathieu Vallée, est-ce qu'on a posé la question hier lors du face-à-face entre Valérie Ayé et Marion Maréchal? Est-ce que l'Union européenne a un projet immigrationniste ou est-ce qu'au contraire, avec le pacte asile et immigration, il est possible encore de contenir les flux migratoires?
Le pacte asile et immigration porté par Emmanuel Macron et Madame von der Leyen, c'est en fait, ils veulent répartir les migrants en Europe. Nous, on veut les faire repartir. Et vous savez, aujourd'hui, les juges européens sont en train de nous mettre à genoux face à l'immigration clandestine, face aux passeurs.
Bien sûr.
Vous savez qu'à la frontière italienne, à la frontière calaisienne ou à la frontière espagnole, on dépense un pognon dingue pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est quoi l'immigration clandestine? C'est des gens qui violent la loi. Sinon, on change de loi et on dit à tout le monde que c'est open bar et que la porte est ouverte. On a Fabrice Leggeri qui a dirigé pendant 7 ans l'agence Frontex. Nous, on veut que l'agence Frontex, ça redevienne une véritable agence de garde-frontière, de garde-côte pour non seulement repousser l'assaut des passeurs qui sont des criminels qui transforment nos océans, nos mers en cimetières, et que quand on intercepte des bateaux, évidemment qu'on fait preuve d'humanité en sauvant ceux qui sont dans la détresse en mer, mais qu'on les raccompagne dans les ports d'origine, parce que sinon, on sert les intérêts des passeurs qui font du fric sur le dos de la misère humaine, de ces enfants qui sont morts sur les plages, et derrière, effectivement, vous savez, et j'en terminerai là, vous avez aujourd'hui, lorsque vous avez des migrants qui arrivent, ou même des gens qui sont qui se disent éligibles au droit d'asile, ils arrivent en Europe, et la Cour de justice de l'Union européenne dit, bah écoutez, quand ils arrivent, vous pouvez pas les mettre dans un centre pour étudier leurs demandes, ils peuvent voyager dans le pays qui les accueille, dans tous les pays de l'Union européenne, et en attendant, eh ben, on n'a pas la protection de nos frontières, ni extérieures, c'est la double frontière prônée par Jordan Bardella, la frontière européenne et la frontière nationale. Vous voyez, il y a des propositions qu'on fait, et d'ailleurs, sur ce pacte, le Rassemblement national porté au Parlement européen votera contre, et c'est là aussi quelque chose qui est important, puisque pour rester souverain dans notre pays, il faut qu'on puisse décider qui rentre, qui sort, et surtout qui reste.
Pour conclure, Mathieu Vallée, c'est un tournant. C'est un tournant personnel, professionnel pour vous. C'est un changement dans votre vie, dans votre carrière. Est-ce que vous pensez qu'en embrassant une carrière politique, aujourd'hui, on est plus efficace qu'en étant gardien de la paix?
Bah vous savez, pendant 19 ans, j'ai protégé les Français avec mes collègues. J'ai donné tout ce que je pouvais, tout mon cœur, ma passion, comme tous les policiers et gendarmes de France le font chaque jour. Et en fait, oui, c'est un changement profond. Moi, je vois pas ça comme une carrière politique, je vois ça comme un engagement politique. Moi, j'ai jamais vu ça comme des carrières, c'est-à-dire avoir des postes, avoir des ambitions personnelles. La seule ambition que j'ai, c'est le collectif. Et je pense que le Rassemblement national propose d'unir tous les Français pour faire face à toute cette adversité, les voyous, l'immigration clandestine, les passeurs, mais aussi l'islamisme radical. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très important. Je pense qu'au XXe siècle, on luttait contre le nazisme. Nos aînés ont payé un prix fort pour lutter contre le nazisme. Au XXIe siècle, l'islamisme radical est quelque chose sur lequel tous les Français devront s'unir et se réunir, parce que c'est eux notre premier ennemi aujourd'hui.
Merci Mathieu Vallée, première prise de parole. Et donc désormais, vous êtes sur la liste du Rassemblement national dans les 10 premières places, si j'ai bien compris, et engagé en politique.
Merci,
je vous dis à très bientôt.
Merci Sonia Mabrouk, merci Mathieu Vallée. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures, le retour de Gaspard Proust, notamment. À tout de suite.
7h, 9h,
Europe 1 matin.
8h31 sur Europe 1, vous retrouvez Gaspard Proust et toutes vos signatures dans un instant. Et juste après, le journal permanent de Christophe Lamarre.
Il a choisi Europe 1 et CNews pour expliquer son choix de rejoindre la liste du Rassemblement National pour les élections européennes. L'ancien commissaire de police Mathieu Vallet, invité de la grande interview ce matin. Selon lui, l'ERN a évolué. C'est aujourd'hui un grand parti républicain, le seul à incarner l'espoir pour les Français. Les obsèques et l'inhumation de Chemchedine, adolescent mortellement frappé la semaine dernière, auront lieu aujourd'hui à la mi-journée dans deux communes proches de Viry-Châtillon. Cérémonie organisée dans la plus stricte intimité à la demande des familles. Et puis reprise ce matin des négociations sur l'emploi des seniors entre partenaires sociaux. Syndicats et patronats se retrouvent à 10h pour tenter d'aboutir à un accord. Faute de quoi l'État reprendra la main.
Merci Christophe. Le temps, Anissa Haddadi, un mardi agité dans le ciel. Hein.
Oui, avec le passage de cette dépression Pierrick qui est arrivée hier par la Bretagne, qui a traversé tout le pays cette nuit, qui ce matin se concentre sur la façade est du pays, entre l'Alsace et la Côte d'Azur. On a encore un temps très pluvieux ce matin, avec le retour de la neige en montagne à partir de 1000 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes, de la neige également sur le Massif central. À l'ouest, c'est encore bien agité aujourd'hui, avec beaucoup de vent, hein, jusqu'à 100 km/h entre les côtes de la mer du Nord et les côtes de la Manche, jusqu'en Bretagne. D'ailleurs, nous avons plusieurs départements qui sont en vigilance orange vague submersion, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, la Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère, et puis la Seine-Maritime, l'Eure, la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance crue. Il y a des débordements dans tous ces départements. Soyez prudents, le vent souffle fort. Cet après-midi, c'est un ciel de traîne qui se met en place sur tout le pays, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Les températures, elles, sont en chute libre. Alors là, la différence thermique, elle va se faire sentir. 9 degrés à Annecy, 10 à Belfort, c'est les températures qu'on avait le matin la semaine dernière. 11 à Saint-Etienne, 13 à Paris et Lorient, 18 pour Marseille et 22 à Ajaccio.
Merci Anissa Haddadi, 8h33.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Voici vos signatures Europe 1 du mardi au programme d'ici 9h. Le zapping politique Europe 1 de Laurent Tessier d'ici un petit quart d'heure. Emmanuel Ducrot nous parlera ce matin de crime d'honneur. C'est le mobile, semble-t-il, du meurtre du jeune Chemchedine, dont les obsèques auront lieu cet après-midi. La revue de presse d'Europe 1 dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour mon cher Dominique.
Dans les journaux ce matin, Olivier, dites-nous.
Eh bien, un texte du pape qui va décoiffer les progressistes, un cri d'alarme parce que les jeunes ne lisent plus. Bref, on va leur lire les journaux.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, quel plaisir, Gaspard Proust, de vous retrouver. Bien rentré de ses vacances, Gaspard.
Bonjour, bonjour. Vous êtes surpris hein, que je sois rentré, parce que vous avez dit Proust, il se barre à Pâques, il va nous faire le coup, il va revenir à la Pentecôte, descendre de l'Esprit Saint. Et bien, figurez-vous que j'y ai songé.
Ah bah, vous avez essayé de proposer ça à la direction d'Europe
1 ? Bien entendu, car le rôle d'un salarié, n'est-ce pas d'être aussi une force de proposition pour le souci du bien-être collectif, surtout quand il est strictement personnel ?
Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Ça nous intéresse, tiens.
Ben, ils m'ont dit, tu sais, Gaspard, c'est pas parce que ça s'appelle Europe 1 que nous sommes une annexe du Parlement européen ou de la Commission européenne, donc t'es bien gentil, tu prends ton stylo, ta gomme, on t'attend mardi matin sans faute, et pour t'aider à redémarrer, t'as qu'à te chanter la chanson du matinalier.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
Non.
L'actu, c'est ma meilleure copine, l'actu, c'est ma meilleure copine, elle me fait rire quand elle me déprime, Mélenchon qui tweet, oui, ça me botte, que j'aime ça, du compost qui rote. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas, non.
Alors du coup, pour m'en mettre dans le bain, j'ai regardé l'intégrale des interviews politiques que j'ai ratées durant cette semaine, parce que je suis un professionnel et je suis tombé sur une pépite.
Alors qu'avez-vous trouvé ?
Tendez bien l'oreille, c'est signé Léon de Fontaine, tête de liste communiste aux européennes, interview hier matin sur Europe 1.
Déjà, on conteste la logique des économies qui sont annoncées avec la fameuse règle des 3% qui sont imposées par l'Union européenne de déficit. Ces 3% viennent de nulle part, ça a été fait autour d'un tour de bento.
Un tour de bento ? Qu'est-ce que c'est mignon un communiste quand ça parle de politique ? Le mec, il confond bonto et bento,
ah oui ?
Plat japonais. Et soudain, les choses s'éclairent, Dimitri. En fait, vous savez ce qui manque aux communistes français ?
Mais quoi donc ?
Un champollion pour décrypter ce qu'ils disent.
Ah.
En fait, tout s'explique, ces gens-là. Si on est choqué quand un communiste parle, c'est parce qu'il faut avoir un dictionnaire pour décoder. Eux, ils se comprennent entre eux. Ils ont leur code, ils ont leur dialecte. Chez eux, un mot n'a pas forcément la même signification que chez nous. Vous savez, c'est comme dans le Retour du Jedi. Vous savez, les petits nounours de la forêt.
Les Ewoks.
Les Ewoks. Ouais, oui. Ils gargouillent des trucs entre eux. Tu oui. comprends rien. Mais eux, ils savent.
Oui, c'est vrai.
Et les communistes, c'est ça. C'est les Ewoks de la politique.
Ah bon, oui.
Bah, quand ils disent faut plus de services publics, en fait, ça veut peut-être dire et si on se mettait tous à la planche à voile? Hein? Quand ils disent qu'il faut augmenter les impôts sur les plus riches, ça veut dire plus de pots pour les ruches. Je sais pas. Quand ils disent plus de mixité sociale et rénovation thermique, c'est peut-être une manière pudique d'inviter tout le monde à une grande partout sur de la moquette triple épaisseur.
Bon,
voilà.
C'est une théorie qui vous appartient, Gaspard, qu'on va vérifier. Hein, ouais. Dites-moi, j'imagine que vous avez aussi entendu parler de la mère socialiste d'Avalon, ex-PS, hein, chez qui on a retrouvé 1 kg de cocaïne, 70 kg de cannabis, des lingots d'or aussi, alors que l'enquête tourne autour de ses frères. Ça vous fait penser à quoi cette histoire ?
Ah, c'est évident, une famille en or. Hein ? Et encore, c'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que figurez-vous que j'ai eu mes petites oreilles lors de l'interrogatoire de la mère d'Avalon.
Ah, vos surmulots de l'info.
Absolument, oui. Moi certes j'ai pris une semaine off, mais mes surmulots ils bossent, ils queen de la news, mes ratatouilles micro-tés.
Et alors, racontez-nous.
Bah, je peux vous dire que ça a été du brutal la garde à vue. Hein.
Ah oui ?
Tout d'abord, on a fait passer un test psychologique à la mère.
Un test psychologique, mais pourquoi ?
Quand ils ont vu qu'elle était socialiste, c'est obligé. Hein. Ils ont dit, vous avez ça depuis combien de temps ? Les premiers symptômes sont apparus à quel âge ? Le socialisme, chez vous, c'est héréditaire ou ça a plutôt été un engrenage, une spirale infernale qui, à un moment, a fait que votre petite voix intérieure vous a murmuré « François Hollande, ça ferait quand même un bon président ?» Non, tu vois, Dimitri, les flics, ils y vont pas à la légère quand ils sont sur un profil pareil. Et puis, il y a un test clinique ultra puissant.
Ah, c'est quoi ça ?
Ils montrent au suspect la photo de François Mitterrand en demandant « Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit en voyant cette image ?» Si la personne répond « Honnêteté et compétence », c'est un cas très lourd. Et si en plus, en montrant la photo de Jack Lang, le suspect dit « Ah ben, il n'y a pas à dire, Olivier Véran, il est quand même aussi bon dans le Covid que dans la chirurgie esthétique », c'est considéré comme irrécupérable.
Bon, il y a quand même... on lui a posé quoi comme question, l'interrogatoire ? Ça a démarré comment ?
Ah, l'interrogatoire, tout ce qu'il y a de plus simple. Bonjour madame, bon, on va pas tortiller. Chez vous, on a retrouvé 70 kilos de résine de cannabis, 20 lingots d'or, kilogrammes de cocaïne. Du coup, on a quand même quelques doutes. Enfin, on aimerait quand même creuser le sujet parce que disons que dans une famille française typique, en fouillant, on a plutôt tendance à trouver un stylo derrière un canapé, un vieux trombone à coulisses ou une flûte Fisher-Price sous le lit, quoi. Mais le stock chez vous, comment dire, je sais que parfois des avions de ligne peuvent perdre leur cargaison en vol, mais enfin, c'est quand même rare que ce soit au milieu du salon, enfin, sans qu'il y ait un trou dans le toit, quoi. D'ailleurs, nous avons interpellé ces deux personnes que vous connaissez peut-être. Et la mère, elle répond, ah non, pas du tout, ça ne dit rien. Ils travaillent chez Carglass? Non, madame, c'est vos frères. Ah oui! Maintenant que vous me le dites, ah bah c'est fou, ils ont grandi, hein. Madame, vous n'êtes pas sans savoir que l'un de vos frères a déjà été condamné à de la prison pour trafic de stupéfiants. Ah, c'est pour ça qu'il n'a pas donné de nouvelles durant toute cette période.
Ben oui, tout s'explique.
Madame, j'ai l'impression que vous le prenez un peu pour des idiots. Ça vous choque pas qu'on ait retrouvé 70 kilos de cannabis comme ça dans une chambre chez vous? Et elle a répondu, ah oh, mais vous savez, moi il y a des chambres où je vais jamais. C'était la salle de bain, madame. Ah zut, encore loupé. Affaire à suivre.
Affaire, oh oui, on va suivre ce feuilleton évidemment avec beaucoup d'intérêt.
Alors, présomption d'innocence pour le moment, bien entendu.
Vous avez tout à
tout
fait raison.
Tout cela n'est que surmulage.
Voilà.
Surmulage.
Et bien, la suite demain, sans doute. Merci beaucoup, Gaspard. Allez, dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Tous les après-midi sur Europe 1, Stéphane Bern vous fait le récit d'événements, lieux, personnages qui ont façonné l'histoire.
Oui, cet après-midi, Stéphane vous raconte la véritable histoire d'un écrivain et homme politique considéré comme l'un des précurseurs du romantisme, historiquement vôtre sur François-René de Chateaubriand. C'est tout à l'heure de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern.
8h41, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un texte du pape qui risque de faire du bruit.
Oui, vous connaissiez le pape social, tiers-mondiste et toujours prompt à défendre la défense, à prendre la défense des migrants. Voici le François qui risque de faire grincer pas mal de dents chez les cathos de gauche. Témoin d'ailleurs ce matin les infinies prudences de Lacroix à son endroit. Au départ, pourtant, pas de quoi s'échauffer. Le texte a pour objet de rappeler ou dénoncer la position de l'Église sur des sujets relatifs au respect de la dignité humaine. Il a été élaboré par le dicastère de la foi, l'une des plus hautes instances du Vatican. Il a demandé 5 ans de travail, a été approuvé par le pape lui-même. Alors la Croix commence par se réjouir de voir y figurer en bonne place une condamnation du travail des migrants, les effets destructeurs de l'empire de l'argent, ainsi que la non-condamnation des personnes homosexuelles. Mais dans le Figaro, où les cathos de gauche sont beaucoup plus rares, Jean-Marie Guénois souligne surtout que le Vatican réaffirme sa totale opposition à l'IVG. L'avortement provoqué est le meurtre délibéré d'un être humain, peut-on y lire. Meurtre. Condamnation ensuite de la gestation pour autrui, qui lèse gravement la dignité de la femme et de l'enfant. Condamnation de l'euthanasie. Aider un suicidaire à mettre fin à ses jours est une atteinte objective à la dignité de la personne, peut-on y lire. Condamnation du changement de sexe. Condamnation de la théorie du genre. Le pape François considère que le corps doit être reçu dans une vision écologique comme un don à accepter et à respecter. Il y a quelques mois, Marine Tondelier, la patronne des écolos, saluait un pape lucide et courageux sur les questions de justice sociale et environnementale. On est impatient de l'entendre faire l'exégèse de ce nouveau texte.
Et puis le pape condamne également la violence numérique.
Oui, Alors, on ne l'attendait pas forcément sur le sujet, mais le texte alerte effectivement sur les dangers potentiels du monde numérique vu comme un espace de solitude et de manipulation. Ce qui nous fait une transition toute trouvée avec le thème de Société du jour. Le téléphone exclu du collège, pour l'interrogation, s'interroge la Provence, en gros titre, parce que la ministre de l'Éducation a indiqué vouloir expérimenter une pause numérique au collège. Ce qui est merveilleux, c'est que depuis 2018, le téléphone portable y est déjà prohibé, même durant les récréations, rappelle le quotidien marseillais, mais a priori, le personnel éducatif n'est jamais parvenu ou n'a jamais souhaité appliquer cette règle, à l'exception notable d'ailleurs des écoles privées. Mais passons. Du côté des enseignants du public, écrit Julien Danielides, on accueille la déclaration de Nicole Belloubet dans un haussement des épaules. Le bannissement complet des smartphones peut être un sujet de discussion, reconnaît juste le secrétaire départemental du SNES-FSU, le syndicaliste qui juge que le débat n'est pas d'une urgence folle. Alors on conseillera tout de même à ce syndicaliste la lecture du Figaro ce matin, qui peut-être révisera son point de vue. La pratique de la lecture s'effondre chez les jeunes, annonce le journal. Selon une étude Ipsos pour le Centre National du Livre, les 16-19 ans ne consacrent plus qu'une heure 25 à la lecture. Ils passent 5h10 sur leur écran par jour. J'ai bien dit par jour.
Oui, c'est 1h25 semaine.
Et 1h25 par semaine.
Oui, voilà.
Il y a eu une utopie d'Internet, on s'est laissé éblouir, explique la présidente du CNL, le Centre National du Livre. Il y a désormais un enfermement addictif avec le numérique. On peut parler de drogue et en cela de nouvelle guerre de l'opium. Comme dirait notre prof syndicaliste marseillais, cela peut être un sujet de discussion.
Autre sujet dans les journaux ce matin, Olivier Delagarde, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, 26 juillet.
Oui, dans Le Parisien aujourd'hui en France, Gérald Darmanin accorde une interview où il précise les modalités de circulation des gens qui, pour leur malheur, habitent ou travaillent dans la zone concernée. Je vous signale, soit dit en passant, que Europe 1 est en plein dedans. Après avoir dit qu'il n'y avait pas de plan B, le ministre de l'Intérieur reconnaît se préparer à toutes les éventualités. Il est certain que si nous avions des menaces caractérisées, nous appliquerions les décisions que prendrait le président de la République. Nous avons de nombreux scénarios possibles, explique-t-il. Et puis la vigilance n'est pas que pour le jour de la cérémonie d'ouverture. Il y a aussi des matchs à haut risque comme Mali-Israël en football. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu venir, celui-là. Pour info, ce sera le 24 juillet et cela risque d'être tendu aux abords et dans les tribunes du Parc des Princes. Mais on va terminer avec un autre prince d'un autre parc. Son nom est à jamais synonyme de beau jeu. André Boniface, le rugbyman s'est éteint hier à 89 ans et l'équipe lui consacre 4 belles pages ce matin. Boniface, ce fut le créateur du jeu à la française, à la main, explique Richard Esco. Ces ruées tricolores sorties de nulle part, courses biseautées, perlées de passes redressées à la façon d'un matador, buste droit, dos cambré. Ce que Pat Marshall, le pape du journalisme rugbystique outre-Manche, appela dans les années 60 le French Flair. Alors, au revoir et merci, Monsieur Boniface.
Et merci, Monsieur Delagarde, pour cette belle revue de presse, encore une fois, tous les jours, à 9h moins le quart. Dans un instant, on va retrouver Emmanuel Ducrot. Avant cela, on va prendre des nouvelles de Pascal Pro et de ce qui va se passer sur l'antenne d'Europe 1. Tout à l'heure, entre 11h et 13h, Pascal Pro et vous. Ça va, Pascal, ce matin?
Ça va très très bien, mais c'est vrai que j'écoutais avec attention ce que disait notre camarade et la phrase du pape, en tout cas, qu'il a signé, l'avortement est un meurtre, pourra faire réagir, évidemment, parce que cette phrase, j'imagine, en 2024, elle peut choquer, pourquoi pas, et puis elle doit aussi être expliquée aux uns et aux autres. Donc c'est une position assez radicale, mais de tout temps. L'Église, évidemment,
c'est la position traditionnelle de
exactement,
l'Église. Hein.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. On pourra revenir sur cette étude publiée ce matin dans le Figaro qui est hallucinante, effectivement, 1h25 de lecture. Alors, de lecture, mais c'est même pas de lecture de fiction ou de lecture, c'est toute lecture. C'est-à-dire que c'est la lecture des programmes télé, j'imagine. Oui.
Alors, c'est beaucoup BD, manga, comics. Alors, il y a des choses excellentes.
1h25 par semaine contre 5h10 par jour d'écran.
Oui.
Bon, donc effectivement, ça peut interroger. Et puis, on pourra revenir sur Valérie Ayer hier et Marion Maréchal,
puisque c'était un des premiers débats de campagne électorale européenne. Et vous pourrez donner votre avis, évidemment, sur ces sujets.
Et pour prendre la parole sur l'antenne d'Europe 1, le numéro Anissa Dadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Pascal Pro et vous, 11h-13h.
Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais dire?
L'heure
oui,
des pros.
Oui, Pascal, vous allez le retrouver aussi dans 10 minutes, hein, pour l'heure des pros.
Perdu.
Emmanuel Ducrot, on va parler des obsèques avec vous du jeune Chemseddine, 15 ans, tabassé à mort à Viry-Châtillon, c'était jeudi dernier. Alors, les obsèques auront lieu aujourd'hui. Et alors, on parle dans cette affaire, Emmanuel Ducrot, de crime d'honneur.
Oui, on a pu lire l'expression dans les colonnes du Parisien, par exemple. C'est ainsi, en tout cas, que certains médias ont traduit les premiers éléments de l'enquête, je vous les rappelle brièvement. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat à l'encontre de 4 hommes. Ils avaient décidé de passer le jeune Chemseddine à tabac après des échanges qu'il aurait eu avec la sœur de 2 des mises en cause, une adolescente de 15 ans. En lui parlant, il l'aurait sali et avec elle l'honneur de la famille. Ils ont tué le responsable de la disgrâce pour laver une prétendue souillure.
Alors pour vous, il faut refuser d'appeler cela un crime d'honneur.
Oui, parce Pourquoi que c'est une notion inexistante en droit français. La France reconnaît le meurtre, l'assassinat quand il y a une préméditation, parfois les circonstances atténuantes. L'atteinte à l'honneur n'en est pas une et ne doit pas en devenir une par la force de l'habitude et du langage. Utiliser l'expression, c'est importer une loi du talion, à la fois obscurantiste, communautaire et religieuse, et l'accepter. Amnesty International...
Les faits, tout simplement, oui. Emmanuel, j'ai envie de vous répondre.
Oui.
Factuellement, vous dites que c'est pas dans le droit, mais c'est pourtant ce qui semble s'être reproduit.
Oui, mais si on emploie l'expression, on l'accepte. Amnesty International explique que, bien que l'islam ne préconise pas les crimes d'honneur, la plupart de ces crimes dits d'honneur sont perpétrés dans des pays musulmans, au sein de communautés d'immigrés musulmans. C'est Amnesty International qui l'écrit ainsi. L'islam n'en a pas l'exclusivité, bien sûr, hein, l'hindouisme des castes le pratique, mais le crime d'honneur est reconnu en Iran, en Irak, au Pakistan, où il doit être excusé par la loi. Des pays de cauchemar pour les droits humains, pas des références civilisationnelles.
Alors d'ailleurs, crime d'honneur, ça renvoie aussi à des structures sociales archaïques en ce qui concerne la France.
Et un droit de l'obscurantisme. Oui. L'anthropologue algérien Malek Chebel en soulignait la dimension tribale. L'honneur étant une conception très personnelle, très civilisationnelle, le crime d'honneur ne peut tenir que de la vengeance pour des critères qui n'ont rien d'universel. Et ça, c'est inacceptable dans un état de droit.
Et alors vous voyez aussi dans ces crimes d'honneur un des crimes de soumission sexiste. On l'a beaucoup entendu ça.
Et oui, si nous devons refuser de l'intégrer à notre paysage philosophique, c'est parce que le crime d'honneur, appelé crime d'honneur, intervient toujours pour la même raison. Le contrôle des femmes, des mères, des sœurs, ce sont elles qui sont accusées de salir leur famille, d'entacher la pureté et la réputation. Entériner l'existence des crimes d'honneur en les nommant, c'est entériner le fait qu'ils ont une source, des femmes qui sont déviantes au regard de leur communauté, et c'est donner une légitimité à la soumission. C'est ça qu'il y a dans l'expression crime d'honneur, et ça devrait faire bondir les féministes. C'est pour ça que nous devons refuser d'employer cette expression pour parler de meurtre barbare ou alors comme d'une circonstance aggravante. Il n'y a aucun honneur dans ces crimes-là, il n'y a qu'un réflexe arriéré.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot, merci beaucoup Emmanuel. 8h52.
7h, 9h. Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour à tous, l'événement hier soir.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1 pour le premier face-à-face des élections européennes. Ravie de vous retrouver, ma chère Sonia, pour cette émission.
Tapis rouge sorti, le débat, le face-à-face entre deux têtes de liste aux élections européennes.
Ce face-à-face, bonsoir à vous, Valérie Ayé.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Marion Maréchal. Bonsoir.
Face-à-face, ton univers.
Valérie Ayé, tête de liste Renaissance, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, les règles du jeu ont été posées, et bien dès le départ, par nos amis Sonia Mavrouk et Laurence Ferrari.
Nous souhaitons tous et toutes, surtout, un débat vivant, dynamique, mais intelligible pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors essayez de ne pas trop vous interrompre pour que l'on comprenne bien.
Débat dynamique, message bien entendu par Marion Maréchal, et bien qui a battu le record du nombre de questions en moins de 15 secondes.
Et donc que faites-vous à Château-Chinon
Pour protéger les frères musulmans. Pourquoi vous n'interdisez
pas? On agit, dès lors qu'ils rentrent dans le cadre de la loi, on agit.
Mais donc qu'est-ce que vous faites contre les frères musulmans aujourd'hui? Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous laissez ces institutions ouvertes? Pourquoi vous laissez ces mosquées ouvertes? Quelle est la justification à cela?
C'est gagné!
Voilà, débat dynamique, débat aussi sans trop se couper, enfin presque réussi. Je vous jure, on n'a rien accéléré. Go! 2, 1, go!
Donc ne mentez pas aux Français,
mesdames,
Français en disant que c'était
nous avancions dans
ne pas mentir aux Français, c'est leur dire que nos agriculteurs ont besoin d'accords de commerce. Madame. Le CETA, c'est plus...
Il est 21h42. Mesdames, s'il vous plaît, on comprend rien à ce que vous dites si vous parlez l'une sur l'autre.
Valérie Ayer qui nous a donné au passage le programme de la fin de soirée hier.
On va probablement toutes nous quatre dans des restaurants à Paris.
Ah, sympathique.
C'était vraiment très intéressant.
Et il y a un candidat, mesdames, messieurs, aux européennes qui est prêt à affronter la terre entière. Rien ne lui fait peur. Musique, super-héros, s'il vous plaît, Jean-Régis. Waouh. Son nom, Léo Desfontaines, candidat de la gauche unie. Et dans les couloirs du siège du Parti communiste, on est à fond.
Et 3%.
Oui, 3% d'intention de vote aux élections européennes, même 2% selon le dernier sondage OpinionWay pour CNews. Mais Léon Desfontaines garde l'espoir d'une remontada. Hier, sur CNews et Europe 1, Sonia Mabrouk a rappelé l'objectif de la saison assez surprenant des communistes.
J'ai noté que pour vous, votre premier adversaire, c'était Jordan Bardella. Moi, je pensais que vous étiez plutôt en train d'essayer d'émerger à gauche.
Bah oui, de jouer le maintien, pas la Ligue des Champions. Bah c'est comme si je visais Dimitri le prix de la plus belle coiffure avec mes trois cheveux.
Jordan Bardella, c'est que les dire... travailleurs, les ouvriers, quand vous les avez perdus au Parti communiste.
Justement, on est en train de reprendre la main sur ces sujets-là. Il y a du chemin, mais il y a de la détermination, ne vous inquiétez pas.
Si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance,
Léon.
Vas-y,
mais
fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Courage Léon. Et pour terminer, après le choix musical hier de Jordan Bardella, les coraux, le choix de Marion Maréchal.
Bah c'est comme d'habitude hein.
Ça finit toujours en chanson.
La chanson c'est la vie.
Vous avez complètement raison. Merci beaucoup Laurent Tessier. Votre zapping politique à retrouver donc sur Europe1.fr. Et on vous retrouve donc demain.
À demain.
À demain même heure. Et tous les jours, midi 45, hein, dans Pascal Pro et vous, le grand débrief.
Le très grand débrief.
Voilà. On se disait, il a un peu de métier ce garçon dans la manipulation des archives. Il s'y connaît un peu.
On y va.
Pour cause. Hein.
On est chaud.
Merci beaucoup Laurent. Allez, à tout à l'heure. Ah, n'oubliez pas, 9h30 sur Europe 1, Culture Média, les invités ce matin, Anissa Dali.
L'invité Média, vous la connaissez tous et on va se rappeler des souvenirs avec Véronica Loubry. Vous vous souvenez de Véronica Loubry?
Ça ne nous rajeunit pas.
Elle a été élue meilleure animatrice de télé. Elle avait eu un set d'or, Véronica Loubry. Bien, elle va nous parler de son film La vie m'a réservé bien des surprises, son livre, pardon, qui est sorti le 20 mars. Et puis, les invités culture avec du live aujourd'hui dans le studio Coluche, une partie de la comédie musicale Je vais t'aimer.
Quand on fait la Java le samedi à Broadway, ça swing comme un melon.
Comédie musicale avec les plus grands titres de Michel Sardou, comédie musicale qui cartonne à travers toute la France. Ils seront là en bande et ils vont chanter tous ensemble dans le studio Coluche de 10h à 11h
voilà,
sur Europe 1.
Ça s'appelle Je vais t'aimer, cette comédie musicale. Merci Anissa. Et donc c'est dans Culture Média avec Thomas Hill dès 9h30. Dans un instant sur Europe 1, l'info continue. L'heure des pros. À demain.
Europe 1.